Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h59 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. Ce matin, on revient bien sûr sur la disparition de la petite Liana. Elle est toujours introuvable. Elle a 11 ans. Elle a disparu vendredi dernier dans le Gers. Et on apprend que le principal suspect avait fait l'objet d'une plainte pour viol en août dernier. Depuis, rien ne s'est passé. Il n'avait pas été entendu, pas inquiété pour cette affaire et cette plainte pour viol. Dans le journal de 7 heures, vous entendrez le témoignage de la maman de la fillette qui avait porté plainte. Elle ne comprend pas pourquoi l'homme n'avait toujours pas été entendu sur ces faits. Où en est l'enquête ? Nous serons avec un ancien enquêteur de la gendarmerie à 7h10 pour faire le point. Et puis Sébastien Lecornu s'est exprimé hier sur la nuit de violence après la victoire du PSG samedi. Il a dénoncé, je cite, des images lamentables. Il a aussi relancé l'idée d'une exécution des courtes peines. Bonne ou mauvaise idée, vous venez en débattre ce matin au 3216 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Je pose la question à 7h40 à la députée du RN Laure Lavalette. À 8h30, l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls répondra à mes questions. Intérieur et justice, ce matin, effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et on en débat avec vous autour de toutes les informations qu'on vous donne. Il est 7h dans un instant, le journal. Mais d'abord, la météo. Il y a du soleil au sud, de la pluie au nord, classique.
Ça y reprend un grand classique. Alors, c'est une journée plus calme qu'hier, hein, ce qui ne va pas être très difficile. On va avoir beaucoup de soleil des Pyrénées à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, ça va être beaucoup plus gris, et notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'île de France et les côtes de la Manche, avec un temps pluvieux. Température pour ce matin en baisse. Cet après-midi, il fera souvent entre 17 et 23 degrés. C'est un peu juste pour la moitié nord. Il fera 24 à 28 degrés pour le sud-est.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 7h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le profil trouble du suspect dans la disparition de la jeune Liana dans le Gers, visée par une plainte déposée l'an dernier pour viol sur une enfant de 10 ans. Vous entendrez le témoignage de la mère de cette victime présumée en colère. Elle dénonce la lenteur de la justice. Deux peines de prison ferme prononcées après les débordements en marge de la victoire du PSG. Et encore beaucoup de sursis. Le débat relancé sur l'exécution des courtes peines. Et puis faites-vous partie des 7% de Français considérés comme riches? La réponse dans ce journal.
Et on est toujours sans nouvelles de la petite Liana ce matin.
Ça fait 5 jours qu'elle a disparu. Les recherches se poursuivent dans le Gers, aux alentours de Florence. Un homme a été mis en examen et écroué dans cette affaire, âgé de 41 ans. Il continue de nier tout lien avec cette affaire, mais son profil interpelle. On a appris hier que ce père de famille était déjà connu des autorités, visé par une plainte pour viol sur une enfant de 10 ans. L'été dernier, et c'est une information révélée par nos confrères de BFM TV qui ont rencontré Marion Gauthier, la mère de la victime présumée, sa voix a été modifiée.
Sa fille Rosa passe de plus en plus de temps dans la famille d'une amie, pose de plus en plus de questions sur la sexualité. Audrey finit par l'interroger, retour du centre aéré.
Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit chez eux, il essaye de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, que... Il a fait de l'attouchement du sein, il voulait jouer à le jeu de papa et de maman.
L'enfant ne lui dit pas combien de fois elle a été violée. Pour me protéger, souffle sa mère, qui se demande comment elle n'a pas vu Jérôme B devenir plus présent, insistant pour voir Rosa aujourd'hui.
Elle a un traitement d'antidépresseur, elle a un traitement de somnifère, elle va pas bien. Ses notes de à l'école, ils sont chutés, elle a peur de tout. J'ai une culpabilité énorme, que c'est ma faute. J'arrive plus à regarder dans le miroir.
Mais elle regarde cette plainte tous les jours dans l'attente de nouvelles.
Je dis que si le justice il était marche un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana n'est pas disparu. Ça me met en colère.
Elle espère encore que Liana soit retrouvée saine et sauve. Jérôme B, lui, est toujours présumé innocent.
Témoignage recueilli par nos confrères de BFM TV, Fabrice Babin et Juan Balancia.
Et juste après votre journal, Thibault, un général de gendarmerie qui a commandé la section de recherche d'Orléans sera en direct avec nous pour nous dire comment et où en est l'enquête.
23 personnes jugées hier en comparution immédiate après les débordements qui ont émaillé la victoire du PSG en Ligue des Champions. Deux ont passé la nuit derrière les barreaux. Un émeutier placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement et un policier condamné à 2 ans de prison, donc 14 mois ferme pour avoir menacé 2 hommes avec son arme alors qu'il était hors service. Pour les autres, auteurs notamment de violences contre les forces de l'ordre, ils écopent pour la plupart de peines avec sursis et cela agace les oppositions de droite qui exigent des réponses et le Premier ministre de relancer hier à l'Assemblée nationale l'idée de l'exécution de courtes peines. Thomas Becker.
Sébastien Lecornu veut que les courtes peines soient effectivement purgées en prison.
Des peines très courtes, aujourd'hui non possibles. Donner plus de souplesse aux magistrats pour adapter justement notre procédure pénale et notre droit pénal.
Le ministère de la Justice a d'ailleurs un texte prêt à l'emploi, mais c'est le gouvernement lui-même qui a retardé son examen, rappelle le député Horizon Frédéric Valletoux.
Le gouvernement change d'avis, tant mieux. Les courtes peines, c'est le fait qu'elles ne soient jamais exécutées. Tout le monde le sait, et les délinquants les premiers.
Au Rassemblement National, on revendique les droits d'auteur. Pour le député Gaëtan Dussauzet, le gouvernement a un train de retard.
Il oublie que ça fait 10 ans que lui et ses amis sont au pouvoir et qu'ils avaient donc eu 10 ans pour le faire.
À gauche, la députée écologiste Sandrine Rousseau réclame un changement de la doctrine du maintien de l'ordre, pas une nouvelle politique de répression.
Les prisons sont surchargées, les courtes peines. En fait, la seule réponse systématique du gouvernement, c'est la répression, la répression, la répression.
Sans certitude d'obtenir une majorité sur le texte, Matignon se garde pour l'instant d'annoncer une date pour son examen.
À retenir également que 2 personnes sont mortes après avoir chuté dans la Seine, portant à 3 le nombre de victimes lors de cette soirée, des blessés. Aussi comme ce jeune garçon de 13 ans visé à Bobigny par un tir de LBD, une enquête de l'IGPN a été ouverte.
Et la question non seulement du maintien de l'ordre, mais aussi de la réponse de la justice. Je les pose tout à l'heure à Laure Lavalette, elle sera mon invitée sur RMC à 7h40, la députée RN. Et puis vous aussi, bien sûr, vous nous dites, vous réagissez, le 32-16 vous est ouvert.
La gauche, en ordre de bataille à moins d'un an de la présidentielle, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a réuni ses troupes hier soir avec une première échéance, Cyprien Pézril, pour trancher la question de la primaire.
On ne peut pas être la gauche la plus bête du monde, défend l'entourage d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui propose donc à ses adhérents de voter le 9 juillet au plus tard, dire ce qu'ils préfèrent pour la présidentielle. Parmi les options envisagées, une sorte de primaire interne pour désigner le candidat du PS, François Hollande, Boris Vallot, Olivier Faure ou Raphaël Glucksmann, candidat amené ensuite à affronter dans une autre primaire l'écologiste Marine Pontollier ou l'ex-insoumis François Ruffin. Maintenant, il faut avancer en jouant un proche du patron du PS. Jusqu'ici, c'est Raphaël Glucksmann qui est le mieux placé, mais rien ne dit que les militants socialistes vont le soutenir. Notre partenaire, c'est le PS, sera sur un de ses proches, persuadé qu'il peut concurrencer Jean-Luc Mélenchon, qui pour l'heure fait course en tête à gauche.
L'actualité ce matin, c'est aussi l'adoption du projet de loi d'urgence agricole voté en première lecture à l'Assemblée nationale dans sa version initiale. Pour répondre à la colère du secteur, le texte prévoit notamment la facilitation de grands projets d'élevage, d'accessibilité à l'eau via des méga-bassines ou encore la lutte contre la concurrence déloyale. Ils sont près de 5 millions en France, considérés comme riches. C'est plus de 7% de la population, nous dit un rapport sur le niveau de vie des Français les plus aisés, publié par l'Observatoire des inégalités. Victor Joannin, à partir de quel niveau de revenus sommes-nous considérés comme riches en 2026?
Eh bien, tout dépend de la composition du foyer. Une personne seule est riche si elle touche plus de 4300 euros par mois après impôt sur le revenu. Un couple sans enfant s'il touche plus de 6 400 euros par mois et une famille avec 2 adolescents, 10 730 euros. Le coût du logement n'est pas pris en compte, même si les Parisiens, par exemple, payent des loyers très élevés, car les auteurs du rapport estiment qu'ils bénéficient en contrepartie de nombreux services comme des écoles de qualité. La région parisienne concentre d'ailleurs un tiers des riches, dont la grande majorité sont des cadres supérieurs, des hommes âgés de plus de 45 ans. Leur niveau de vie a augmenté 2 fois plus vite que celui des plus pauvres sur les 30 dernières années. En somme, déplore le rapport, les inégalités se sont accrues.
RMC 7h07, la préparation des Bleus se poursuit à Clairefontaine.
Une équipe de France au complet au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a profité d'un déjeuner avec les joueurs pour leur adresser un petit message de soutien.
Moi, je rêve qu'il y ait la troisième étoile qui arrive là, au-dessus du coq français. Ça nous irait très bien. Je sais que ça ne viendra pas tout seul. Rien n'est écrit. La France sera derrière vous durant cette compétition. Chaque étape, chaque jour. Et n'oubliez jamais que ça vous donne toute la force. Donnez-vous à fond, parce que c'est l'occasion d'une vie. Vive les Bleus, vive la République et vive la France.
Et pour écrire l'histoire, ça commence demain. Premier match de préparation pour le mondial pour les Bleus à Nantes face à la Côte d'Ivoire. Ce sera à vivre sur RMC. Puis rapidement, un mot de Roland Garros avec trois Italiens et un Canadien sur les courts aujourd'hui en quart de finale chez les hommes au lendemain des qualifications de Mensik et Zverev pour le dernier carré du tournoi parisien. Roland Garros sur RMC et sur la radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Elle a disparu vendredi à 15h. La petite Liana, 11 ans, est toujours introuvable. Le principal suspect, un homme de 41 ans, qu'elle connaissait, père d'une de ses amies, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et l'on apprend hier soir qu'il avait en réalité été l'objet d'une plainte pour viol déposée en août dernier, sans qu'elle n'ait la moindre conséquence pour l'heure. Bonjour Jacques-Charles Pombonne, vous êtes général de gendarmerie, vous avez commandé la section de recherche d'Orléans. Est-ce qu'on peut espérer retrouver la collégienne? Où en est l'enquête? Je vous pose la question dans un instant. Dans ce genre d'affaires, le temps joue contre les enquêteurs. Voilà votre parti pris dans un instant. Il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Elle a disparu vendredi à 15h, la petite Liana est-elle encore en vie? L'enquête et les recherches se poursuivent dans le Gers. Bonjour Jacques Fombonne, vous êtes général de gendarmerie, vous avez commandé la section de recherche d'Orléans. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Le principal suspect, Jérôme B, a été mis en examen. Il s'agit du père d'une des amies de Liana. Il réfute toujours être lié à la disparition de la petite Liana à 11 ans. Introuvable donc depuis vendredi dernier. Et l'on a appris hier soir que cet homme, Jérôme B, avait fait l'objet d'une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans déposée en août dernier. Depuis 9 mois donc, cette plainte pour viol n'a en réalité pas vraiment été prise au sérieux. Il y a eu 54 jours pour que la brigade informe le parquet, puis encore 5 semaines pour que le dossier arrive à Auch, c'est-à-dire 3 mois rien que pour le transit administratif. Et Jérôme B n'avait jamais même été inquiété ou interrogé sur ce viol. Comment c'est possible ?
Ah ben c'est possible parce que c'est un... Alors on n'a pas tous les éléments, mais à l'exposé de ce que vous dites, c'est plus qu'un dysfonctionnement. 53 jours pour quitter la brigade, ça paraît étonnant, sauf s'il y a une enquête, et c'est une enquête criminelle, un viol c'est une infraction pour laquelle on risque 20 ans de réclusion criminelle. Il faudrait savoir s'il y a une enquête, et une enquête qui n'a rien donné, et que les gendarmes ont transmis à ce moment-là au parquet, parce que le parquet est forcément avisé, mais même le premier jour lorsqu'il y a une infraction. Ensuite, ce sont, je dirais, des délais administratifs de transmission. C'est pas une décision judiciaire qui tarde, mais c'est inadmissible.
Il s'agit pas juste d'un vol,
il s'agit
du viol d'une petite fille de 10 ans et d'un homme que l'on a laissé dans la nature depuis 9 mois. Ce qui fait dire d'ailleurs à la maman, et on l'a entendu dans le journal de 7h, ce témoignage édifiant, ce qui fait dire à la maman de la petite fille qui a porté plainte pour viol: si la plainte contre ma fille avait été prise au sérieux, je me dis que la petite Liana serait peut-être encore tranquillement chez elle.
Oui, parce qu'il aurait été certainement condamné avec, alors depuis le mois d'août...
Au moins mis en examen.
Et pour une affaire de viol sur mineur, on peut dire avec une quasi-certitude mis en détention.
Et cette situation, elle s'ajoute donc aux différents témoignages et à cette immense inquiétude, parce qu'elle est introuvable, Liana, depuis vendredi. C'est une course contre la montre.
Oui, toujours. Alors, quelle que soit l'affaire, c'est toujours une affaire criminelle et toujours une course contre la montre, parce que les témoignages vont devenir de plus en plus imprécis, parce que les éléments de police technique, la piste vont disparaître petit à petit. Et puis là, effectivement, comme vous le dites, Apolline, il y a le caractère particulier. Où est la petite? Est-elle encore en vie? Et comment peut-on la retrouver ou la chercher?
Comment est-ce qu'on fait pour faire parler quelqu'un qui ne veut pas parler? Jérôme B, il est donc en détention provisoire, mais depuis lundi, semble-t-il, face au procureur d'Agen, il garde le silence.
Alors, d'abord parce que c'est son droit, hein, il faut le dire, même si c'est très difficile de garder le silence, c'est un droit maintenant qui est inscrit formellement dans le code de procédure pénale. Généralement, ce sont les avocats, tant qu'ils ne disposent pas d'une substance suffisante dans le dossier d'enquête, qui disent à leur client: écoutez, taisez-vous, Nous attendons d'avoir d'autres éléments et puis ensuite on s'expliquera avec le juge d'instruction. Alors il a donné quelques éléments en garde à vue. En garde à vue, ce genre d'affaires se traite d'une façon un peu particulière parce que il faut d'abord arriver à cerner le profil de la personne que l'on a en face de soi pour savoir comment il réagit, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qui lui sont importantes. Moi, je disais souvent à mes enquêteurs, plus l'affaire est grave et plus on attend avant de rentrer dans les questions qui fâchent. On va parler d'un peu tout. On va voir quelles sont les choses qui ont de l'importance pour lui.
Pour le mettre quoi ? En confiance ?
Pardon.
Pour le mettre en confiance, en quelque
sorte. Pour le mettre en confiance, absolument. Et puis, pour que même, à un moment donné, ils se disent, mais attendez, je suis là pour une affaire très grave, et puis on m'en parle pas. Et, petit à petit, on va essayer de dérouler la pelote. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rompre le dialogue, que la personne, à un moment, vous dise, écoutez, maintenant, je vous dis plus rien, j'ai le droit au silence, et j'attends la fin de la garde à vue, il en a pour 48.
Comme vous dites, il faut effectivement créer des circonstances pour qu'il parle. Et en même temps, on est dans une urgence vitale, puisqu'on se dit que la petite a disparu, évidemment, depuis vendredi. Jérôme nous appelle de Pau, au 3216. Bonjour, Jérôme.
Bonjour Apolline, je me mets un peu à l'écart, il y a un peu de bruit, je suis déjà au boulot. Bonjour.
Alors, et bonjour. Vous êtes au boulot, vous êtes chauffeur livreur. Oui, effectivement, oui. Mettez-vous à l'écart, vous vouliez réagir. Je crois que comme moi, vous vous êtes dit effectivement que cette plainte qui n'avait pas été prise visiblement suffisamment au sérieux, ou en tout cas avec suffisamment de rapidité, ça vous désespère.
Bah, plusieurs choses déjà, et un peu plus au sociologique, c'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un en prison, tu le mets aussi déjà pour l'enlever de la société, mais aussi pour le protéger lui-même. Je vais m'expliquer. Cette personne-là, donc, a fait quelque chose et resté 9 mois dans la rue. Je veux dire, le père de la petite fille de 10 ans aurait pu, mais 1000 fois, le choper, le défoncer. Au bout d'un moment, il va falloir que la justice comprenne qu'il va falloir absolument qu'il sorte ces gens-là de la société. Sinon, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire justice eux-mêmes.
Alors, Jérôme, ce que vous voulez dire, c'est que vous estimez que la colère... J'ai reçu hier la maman d'Elias, je dois vous dire, sur BFM TV, parce qu'elle a le sentiment de se heurter à un mur de la justice et à la difficulté simplement à pouvoir parler après les dysfonctionnements qui avaient conduit aussi à la mort de son fils, 14 ans, qui a été tué par 2 mineurs qui pourtant étaient connus de la justice. Et elle avait cette phrase, elle disait, moi, je viens parler ici parce que je préfère parler que de me révolter. Elle disait, le problème, c'est que le mépris ou le mur de la justice entraîne une forme de colère et donc de révolte. Évidemment qu'il faut que la justice réponde, mais elle disait, j'ai encore confiance dans la justice. Si la justice nous répond, c'est évidemment à la justice de faire cela.
Je vais aller plus loin, Pauline. Je pense qu'au niveau sociologique, les gens, mais sur tous les sujets, les gens sont pour l'instant très attentistes jusqu'en 2027. Le prochain qui va arriver, quelle que soit sa couleur, son étiquette politique, s'il ne fait rien, je pense que même au niveau judiciaire, ça va basculer et les gens vont finir par faire de plus en plus justice eux-mêmes, car ils ne croiront absolument plus à la justice de notre pays.
Il faut que la justice soit rendue et soit rendue rapidement et qu'elle fasse son travail. C'est une évidence et on sent la colère qui gronde. Hein. Merci Jérôme évidemment pour votre témoignage. On espère bien sûr que la justice fonctionne. On a vu à certains autres moments que la justice fonctionne parfaitement, mais il y a, on a l'impression, Jacques Fambonne, dans ces enquêtes, évidemment des moyens déployés qui sont considérables pour la recherche de la petite Liana. Mais c'est vrai que ça interroge, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si des plaintes sont déposées avec des témoignages aussi forts que celui de la jeune fille de 10 ans qui a témoigné en août dernier, et que ça met autant de temps pour une sorte, visiblement, de problématiques d'organisation, de processus. Est-ce que c'est acceptable?
Non, c'est pas acceptable. Comme le disait votre intervenant, à partir du moment où l'État est pas en mesure de faire appliquer la loi, le citoyen a la tentation de le faire. Mais d'un autre côté, alors ça dépasse un petit peu mon cercle de compétences, mais on a l'efficacité de la justice qu'on mérite. Lorsque Bonaparte a créé le code d'instruction criminelle en 1808, pour une population de 30 millions d'habitants complètement rurale, il y avait 3000 magistrats. Ils sont à peine 2 fois plus maintenant, avec des fonctions de magistrats qui sont évidemment complètement différentes. Il n'y avait pas de juge d'affaires matrimoniales, il n'y avait pas de juge de l'exécution. Et dans une société qui est maintenant complètement urbanisé avec des moyens de circulation qui sont évidemment pas les mêmes.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fambonne d'avoir répondu à nos questions ce matin et de nous avoir éclairé. Ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, vous finissez en citant Napoléon. Quelle plus belle transition nous aurions pu rêver pour accueillir Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien d'Apolline Matin, fan de Napoléon. On peut le dire comme ça Arthur ou pas?
Oui, c'est beau travail.
Fan et spécialiste bien sûr de Napoléon. Allez, une étape importante a été franchie hier dans le scandale du Déconne, de quoi est-ce qu'on parle justement, Arthur ?
Eh bien, le chlordécone, c'est un pesticide et on sait qu'il est toxique depuis les années 70, mais il a fallu plus de 20 ans pour qu'on l'interdise. Ce matin, à Pauline, on parle d'un scandale d'État.
Vous nous le dites dans un instant. Il y a Arnaud Demanche aussi qui vient pour pirater le 32-16. Il est 7h21. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier, le Parlement a définitivement adopté une loi qui reconnaît la responsabilité de l'État dans un scandale sanitaire lié à un pesticide, le chlordécone.
Et il était temps, hein. Ce pesticide a fait des ravages dans les Antilles françaises. Jusqu'en 1993, on l'utilisait dans la culture de la banane. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en 2018, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique avait du chlordécone dans le sang. Donc oui, ce matin, on peut parler d'un scandale d'État.
Un scandale qui a commencé aux États-Unis.
Oui, c'est là-bas que dans les années 50, on découvre la molécule du chlordécone. À partir de 1958, elle est fabriquée et commercialisée sous la forme d'un pesticide agricole. L'usine se trouvait dans la ville de Hopewell, dans l'État de Virginie. Sauf que, à partir de 1975, des ouvriers de cette usine présentent des symptômes très graves, hein, des problèmes aux testicules, des troubles neurologiques, des mains qui tremblent, des problèmes de peau. Il y a aussi une forte suspicion sur l'aspect cancérigène du produit. Des signaux très alarmants qui poussent donc les autorités américaines à interdire définitivement la production de ce produit en 1976.
Et au contraire, en France, on l'autorise.
Et oui, ça c'est le plus scandaleux de cette affaire. Pendant qu'on l'interdit aux États-Unis, on l'utilise allègrement dans les plantations de bananes aux Antilles françaises. Ce pesticide éliminait les charançons, hein, vous savez, ces insectes qui dévorent les arbres. À la fin des années 70, deux rapports alertent les autorités. D'après eux, le chlordécone serait toxique, il polluerait les sols et surtout présenterait des risques cancérigènes évidents. Mais ça ne suffit toujours pas pour une interdiction. Clairement, on a fait le choix de l'argent plutôt que celui de la santé.
Il faut attendre 1990 pour que l'État français interdise le chlordécone.
Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas à cette interdiction, puisque même s'il est très toxique, ce pesticide était très efficace. Donc, des grosses entreprises de planteurs vont demander des dérogations pour l'utiliser, ce chlordécone. Ces dérogations, Apolline, tenez-vous bien, c'est le ministre de l'Agriculture en personne qui va les donner. Résultat, ce produit sera utilisé dans les Antilles jusqu'en 1993, alors qu'il était interdit aux États-Unis depuis 1976.
Le bilan sanitaire est désastreux.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. D'après des chercheurs, le chlordécone serait à l'origine du nombre anormalement élevé de cancers de la prostate en Guadeloupe. Hein. Il y en a 3 à 4 fois plus là-bas qu'en métropole. En 2007, un cancérologue, le professeur Belpomme, a dénoncé, je cite, « une affaire plus grave que celle du sang contaminé ». Et il faut attendre la visite d'Emmanuel Macron aux Antilles en 2018 pour que l'État commence seulement à reconnaître ses torts. Le président avait alors parlé d'un scandale environnemental. Le vote de la loi à l'Assemblée hier est donc une grosse étape qui pourrait seulement mener à l'indemnisation des victimes.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui chaque jour remonte le temps avec nous. Il est 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Dans le face-à-face ce matin, mon invité c'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls.
Oui, pour parler de la casse, hein, suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ça, Mathieu Béliard et moi, on se souvient du PSG avec Laurent Leroy, Francis Liasser, Eric Rabessandratana et Kaba Diawara. Ok, ça finissait 13e après un match nul à Sochaux. Lionel Potillon, il tirait sur les poteaux et tout, mais au moins, les Champs-Élysées étaient... Nickel. Voilà. Bien Arthur Bertrand, il pouvait faire des expos
tranquille.
Autant qu'il le voulait. Il n'y avait personne pour aller les savater. Là, la dernière, c'était abusé. Vous savez qu'il y a eu 25 000 visiteurs. On a eu 22 pour voir l'exposition et 24 978 pour aller la démolir. Ben voilà, maintenant le PSG gagne. Alors, boum, des casseurs partout. Tiens, merci d'ailleurs à Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes ou Brest d'avoir été aussi nuls en Ligue des Champions depuis 20 ans. Ils l'ont fait exprès pour préserver nos villes et nos patrimoines. Stéphane Bern vous dit merci. Manuel Valls. Manuel Valls, c'est l'invité idéal pour ce matin parce que le foot et le maintien de l'ordre, c'est ses deux passions. Alors, les forces de l'ordre ont procédé à 900 interpellations. 98% sont des jeunes hommes. Et donc, on peut se poser la question, faut-il interdire les jeunes hommes dans les rues, au moins les soirs de Ligue des Champions? Enfin, je veux dire, on y arrive, hein. Pour d'autres événements, par exemple, les concerts de Franck Michael, les soirées Tupperware, il n'y a jamais un homme, encore moins un jeune. On y arrive, on s'est fait. En tout cas, c'est bizarre cette manière de tout casser quand t'es content. Tiens, est-ce que s'ils avaient perdu, les supporters du PSG, ils auraient réparé des trucs.
Ah oui.
Est-ce qu'ils auraient graissé des vélib, ramassé des détritus, nettoyé des devantures.
Oh, c'est beau ça.
J'ai pas l'impression en fait. Ce serait bien. Alors j'ai écouté l'interview que vous avez faite de Jordan Bardella lundi sur le sujet. Il était pas content. Et alors quand il est pas content, j'ai remarqué un truc. Ça m'a obsédé toute l'interview. Quand il est pas content, il respire hyper fort, hein, comme s'il voulait casser la gueule à quelqu'un. Non mais il dit, Madame de Malherbe, ces jeunes qui sont venus casser, qui sont venus piller, qui sont venus brûler les voitures des honnêtes gens, des Français qui travaillent, eh bien ils doivent comprendre que la récré est finie, voilà. Parce que si on laisse faire, eh bien ils rentreront dans vos immeubles, ils fractureront vos portes, ils rentreront chez vous. Il l'a vraiment dit, hein.
Oui,
ils rentreront dans vos immeubles, ils rentreront chez vous, ils ouvriront vos frigos.
Non, ça il n'a pas dit ça.
Vos danettes. Ils seront avec vos femmes. Ils vous voleront votre bourbon, vos deux Siciles, vos trois mousquetaires et vos quatre accords Toltec. Alors c'est tous des gamins, il y a encore des mineurs. On reparle beaucoup de l'éducation des ados. Est-ce qu'il faut être plus ferme, moins ferme, le rôle des parents, blablabla. Tout le monde est perdu, on ne sait plus quoi faire. Alors que la solution, elle est sous nos yeux. Apolline, devenez ministre. Ministre des ados.
C'est une compétence.
Parfait, ils ont rien cassé samedi, on est d'accord.
Non.
T'es pas sur les champs. Et ben voilà,
devenez
la maman de cette nation, votre pays vous appelle. Pendant ces rendez-vous avec Manuel Valls.
Allez, mon pays m'appelle. En attendant, c'est l'antenne qui m'appelle. On se retrouve évidemment à 8h15 tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h28, restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Un policier en prison condamné pour avoir mis en joue avec son arme des supporters du PSG samedi soir alors qu'il était ivre et hors service. Majorité de sursis pour les autres comparutions immédiates d'hier. 15 ans après l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, un prêtre assure en direct à la télévision qu'il a hébergé le fugitif et recueilli ses aveux en confession. Et puis RMC sous la chaleur suffocante des États-Unis à une semaine du début de la Coupe du monde de foot.
L'un des seuls supporters parisiens incarcérés après les violences de samedi est un policier.
23 nouvelles comparutions immédiates hier soir, la plupart des casseurs qui écopent de sursis. Et donc, cet homme condamné à 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a dormi en cellule. Julie Bro, vous suivez ces audiences pour RMC. Vous avez rencontré ceux qui accusent ce policier de les avoir menacés avec son arme alors qu'il était hors service.
On a cru qu'on allait mourir, répètent en boucle Brandon et Reda. Samedi dernier, les deux amis célébraient la victoire du PSG, drapeau en main, au volant de leur voiture dans les rues de Paris, avant qu'un homme ne se mette en travers de leur route.
Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans brassard de police, encore une fois, je le répète, puisque c'est important de le dire. Il a braqué, du coup, mon ami qui était au volant. Il lui a dit de couper le contact, fils de pute, bouge pas ou je te shoot.
Le policier, hors service ce soir-là, dit ne se souvenir de rien. J'étais ivre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, lance-t-il depuis le box du tribunal. Pourtant, les automobilistes assurent avoir été victimes de racisme.
Il y a eu des insultes, rentrez chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays.
J'ai un ami arabe, se justifie le policier, peinant à convaincre le tribunal qu'il a finalement condamné à 14 mois de prison ferme.
C'est une très grande victoire. C'est un soulagement, je pense, pour toute la société, parce que ces gens-là, ils auraient un affaire dehors et devraient servir les droits de la République, quoi. Et là, il est carrément du mauvais côté.
L'IGPN, la police des polices, mène encore des investigations complémentaires alors que le policier risque une interdiction définitive d'exercer son métier.
Et notez que le bilan de ces célébrations s'est alourdi. 3 morts désormais, en plus d'un homme décédé dans un accident de scooter. 2 ont été repêchés dans la Seine, indique le parquet de Paris. Le suspect de l'enlèvement de la jeune Liana faisait déjà l'objet d'une plainte pour viol sur mineur déposée l'été dernier par la mère d'une enfant de 10 ans. Vous entendrez son témoignage dans le journal de 8 heures. Les recherches pour tenter de retrouver Liana doivent reprendre ce matin dans le Gers. 7h33 sur RMC et on se pose cette question ce matin. La traque de Xavier Dupont de Ligonnès est-elle relancée? Elle se pose parce qu'une émission de M6 promettait des révélations, des traces de celui qui a tué sa famille près de Nantes il y a 15 ans avant de disparaître. Romain Houg en direct avec nous pour faire le point. Que faut-il retenir des éléments dévoilés hier?
Principalement un témoignage jusqu'ici jamais entendu, celui d'un homme qui se présente comme un prêtre, le père Marc, officiant dans un monastère de l'Aude. Ce prêtre a appelé hier soir en direct dans l'émission et affirme avoir reçu pendant 4 jours Xavier Dupont de Ligonnès au sein de son établissement religieux en 2022. Plus que ça, il dit même avoir reçu les confessions confession du fugitif qui lui aurait alors avoué avoir tué toute sa famille. On le sait, c'est l'une des pistes particulièrement creusées par les enquêteurs. Dans sa cavale, Xavier Dupont de Ligonnès pourrait s'être caché dans des monastères. Plusieurs ont déjà été perquisitionnés sans succès. Des révélations non vérifiées à ce stade par les enquêteurs que le prêtre a surfaire avec l'accord de l'évêque de Carcassonne et qui aurait été corroborée par une sœur du même monastère qui, elle aussi, aurait appelé l'émission.
Et dans le même temps, Romain, le journal Ouest France creuse pour sa part une piste sur Internet.
Oui, le journal a épluché un forum de discussion catholique sur lequel Xavier Dupont de Ligonnès avait l'habitude de s'exprimer sous deux pseudos connus et pourrait avoir découvert un troisième pseudo Epsilon utilisé par le suspect et surtout actif jusqu'en 2017, soit 6 ans après la tuerie. Pour l'affirmer, Ouest France a utilisé ce qu'on appelle la stylométrie, c'est l'analyse de ses messages, vocabulaire, récurrence de certains termes, ponctuation, tic d'écriture, conclusion. D'énormes similitudes existent entre les messages postés par les trois comptes et même avec des écrits personnels retrouvés sur l'ordinateur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui pourrait donc laisser croire que l'homme était en tout cas bien vivant en 2017, 6 ans après l'assassinat présumé de toute sa famille.
Les explications de Romain Houck pour RMC. Au Moyen-Orient, les États-Unis repoussent des attaques de drones et de missiles iraniens. Des positions américaines au Koweït et à Bahreïn ont été visées. Washington a riposté en frappant l'île iranienne de Keshm. Le sport et une journée aux accents italiens à Roland-Garros. 3 joueurs italiens sur les courts aujourd'hui pour la suite des quarts de finale. Coboli, Berrettini et Arnaldi. Hier, le désormais favori allemand Zverev s'est qualifié en demi-finale, tout comme le jeune Jakub Mensik. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Sabalenka va aussi jouer son quart de finale contre la russe Schneider. Ce sera à suivre évidemment sur la radio digitale RMC 100% Terre battue. RMC, vous le savez, aussi radio officielle du mondial de foot. Les Bleus, encore à la fraîche. À Clairefontaine, ils ont reçu hier la visite d'Emmanuel Macron. Martin Bourdin, on vous retrouve comme tous les jours cette semaine aux États-Unis pour RMC. Aujourd'hui, vous êtes à Houston, symbole Houston de la grosse inquiétude pour cette Coupe du Monde. La chaleur que les autorités cherchent à contrecarrer comme elles le peuvent.
De grandes tiges en acier de 4 à 5 mètres de haut surmontées d'un grand cercle, ça intrigue les habitants de Houston.
Je ne sais pas ce que c'est, une œuvre d'art peut-être ?
Pas une œuvre d'art, non, mais des arbres 2.0 en métal. Un tissu doit encore être installé au sommet avec cette promesse. Il fera 10 à 15 degrés de moins pour les personnes qui se trouvent à l'ombre de la structure.
Oui, j'en ai vu plusieurs en ville. C'est cool, si ça marche, ça pourrait vraiment aider cet été.
Parce qu'ici on suffoque, je ne fais pas un pas dehors sans transpirer. À cause de la chaleur évidemment, mais surtout de l'humidité, ça ne va pas s'arranger dans les jours à venir, m'explique Ruth, une touriste venue du Canada.
On s'en va à la maison jeudi. On n'aurait pas voulu, par contre, s'attarder davantage. 40 degrés, on annonce, on s'en va vers le 40 degrés dans juin et juillet.
En juin et juillet, Houston va accueillir 1,5 million de fans pour la Coupe du Monde, notamment beaucoup d'Allemands, de Hollandais ou de Suédois dont les équipes jouent ici à Houston.
Tom, good luck.
Dites-leur bonne chance, s'amuse Dominique, lui aussi en sueur.
Ils ne sont pas prêts pour cette chaleur. C'est une chaleur différente ici. On se croirait dans un micro-ondes.
Des fans qui vont aussi devoir gérer les changements de température. La climatisation est partout à chaque fois qu'on franchit une porte, y compris celle du stade de Houston couvert et climatisé.
C'est toujours au Texas, mais cette fois à San Antonio, que RMC vous emmène cette nuit, début des finales NBA. Dès 2h30 du matin, les Spurs de Victor Wembanyama accueillent les New York Knicks. C'est unique. RMC vous les fait vivre sur l'appli et sur le site RMC. Une radio digitale a été créée pour l'événement.
Et puis le quintet.
Départ 13h55 aujourd'hui à Laval, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 10, Jolie Star. Son outsider, le 11, Jojo Toons, le 10 et le 11.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h38 au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir après ce que l'on a découvert hier. Liana, non seulement introuvable depuis vendredi, mais le principal suspect, en réalité, a été désigné comme violeur par une petite fille de 10 ans qui a déposé plainte en août dernier, et depuis, rien. La plainte est passée de commissariat en commissariat, semble-t-il, sans que l'homme n'ait été véritablement inquiété. Bonjour Pierre.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Pierre, vous nous appelez de Toulouse, où vous êtes commercial, ça vous fait réagir évidemment. Hein.
Bah oui, moi ça me fait réagir, parce que déjà, moi je suis papa de 2 enfants, et puis je me mets déjà à la place des parents, et je leur apporte tout mon soutien, ça doit être très très difficile en ce moment. Et je suis comme je pense la grande majorité des Français, extrêmement peiné, extrêmement en colère, parce qu'en fait nous, je pense que la majorité des Français, on en a marre d'entendre qu'il y a telle personne qui a violé et qui avait déjà des plaintes aux fesses, telle personne qui a tué sa femme qui avait déjà des plaintes aux fesses. Mais en fait, elle fait quoi la justice? Je suis désolé, quand une gamine de 10 ans, elle porte plainte pour viol, qu'elle parle de pénétration digitale, d'attouchement de sein, une gamine de 10 ans, elle est pas censée savoir ces mots-là, elle est même pas censée savoir ce que c'est. On doit tout de suite la prendre au sérieux. Ce monsieur, c'est même pas 10 mois après, on l'a pas entendu. Ce monsieur, on doit tout de suite aller le choper chez lui, le mettre en garde à vue et le travailler. Et moi, ce qui m'énerve aussi dans cette histoire, c'est que ce monsieur, il a été arrêté, je crois, le lendemain, parce qu'on l'a vu embarquer la petite Liana dans sa voiture. Et le monsieur a le droit de garder le silence en garde à vue. Mais je pense que comme la majorité des Français, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce monsieur-là, enfin, je dis ce monsieur, mais c'est un monstre. C'est même pas un monsieur, c'est un monstre. Il n'a pas le droit de garder le silence. Il doit parler par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires, il doit parler.
Non, alors, par tous les moyens nécessaires, qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre? Est-ce que vous voulez, enfin, on va pas aller torturer le monsieur, quoi.
Mais Apolline, ça fait 5 jours que la gamine, elle est pas là. Ça fait 5 jours qu'on
a vendredi à 15h et la dernière fois qu'elle a été vue, c'était effectivement dans sa voiture.
Moi, je vais vous dire, Apolline, pour des trucs sur mineurs comme ça, où il est avéré que le monsieur, il a embarqué la gamine dans sa voiture et que ses propos sont incohérents, bah oui, par tous les moyens nécessaires, il doit parler.
Ce que je trouve très intéressant, et effectivement, il faut entendre cela, c'est que votre sentiment à vous, celui qu'on a entendu aussi ce matin dans la bouche de Jérôme, c'est de dire, voilà, tant que s'il y a davantage encore de dysfonctionnement, et là, clairement, on est face à un dysfonctionnement de la justice qui n'a pas pris suffisamment au sérieux cette plainte, pourtant, effectivement, très circonstanciée d'une jeune fille de 10 ans, alors, ça donne un sentiment de révolte et parfois un appel, Jérôme le disait tout à l'heure, à se faire justice soi-même. Il ne le souhaitait pas, mais il disait c'est à ça qu'on va arriver si la justice ne le fait pas. Et vous-même, vous allez jusqu'à dire, bah, au fond, il faut carrément les forcer à parler. On entend évidemment tout ça et c'est important aussi d'entendre ce sentiment que ça fait naître chez vous. Et espérons qu'on trouvera les réponses du côté de la justice, précisément pour apaiser tout cela. Pour l'heure, on le voit bien, ça n'est pas le cas. Merci en tout cas pour votre témoignage et votre réaction, Pierre. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer au 32-16, il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Plusieurs peines de sursis ou des courtes peines de prison ferme aménageables ont été prononcées. La justice poursuit son travail après les violences qui ont suivi la victoire du PSG ce week-end. Bonjour Laure Lavalette.
Bonjour,
vous êtes députée Rassemblement National du Var. Une seule condamnation hier à de la prison ferme et d'ailleurs, c'était contre un policier hors service qui a mis en joue des automobilistes qui célébraient la victoire du PSG samedi soir dans les rues. Il a été condamné hier en comparution immédiate à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. D'abord, ça vous surprend, j'imagine?
L'attitude du policier?
Ouais.
Oui, j'imagine bien que c'est pas ce qu'on lui demandait de faire. Mais quand vous dites que la justice poursuit son travail, non, je pense que le laxisme judiciaire poursuit son travail. Et c'est une vraie question d'imaginer qu'il n'y a qu'une seule peine de prison qui a été prononcée et qu'aucun des manifestants, des casseurs...
Il y a des peines de prison, mais avec sursis.
Avec sursis et avec aménagement. En fait, c'est pas ça qu'on demande. Les Français veulent de la fermeté. C'est inimaginable d'imaginer que quand vous chopez quelqu'un, il ne paie pas pour ce qu'il a fait. Il ne paie pas en monnaie sonnante et trébuchante. Je sais pas, vous dégradez un abribus à la abribus, c'est 20 000 euros, et ben vous remboursez les 20 000 euros. Et si vous êtes mineur, et ben c'est vos parents qui remboursent les 20 000 euros. On aménage le remboursement, mais il faut rembourser intégralement ce que votre enfant a cassé. Voilà. Je pense que cette fermeté, il va falloir l'avoir dès maintenant. Gabriel Attal s'est gosillé avec son casseur, pilleur.
Il disait, tu payeur. Casses, tu payes.
Bah, excusez-moi, où est-ce qu'on en est, Apolline de Malherbe, avec cette maxime qui était pourtant de bon sens? Parce qu'évidemment, quand tu casses, tu payes, mais il faut cette triple certitude d'arriver à être rattrapé, d'être jugé et de payer. Et pour les faits les plus graves, eh ben, effectivement, quand vous avez un mortier d'artifice envers un policier, vous dormez en prison. Il faut évidemment abaisser aussi la majorité pénale. On a bien vu
ça l'âge. C'est-à-dire que l'excuse de minorité.
C'est-à-dire quand vous avez des enfants de 13, 14, 15, 16 ans, vous pouvez pas les juger comme si voilà.
Alors le plus jeune des mineurs qui ont été effectivement interpellés à 14 ans.
À 14 ans, ça pose une vraie question. Où sont les parents quand vous voyez un enfant de 14 ans qui fait des... Enfin, je veux dire, c'était chaud, c'était des scènes de guérilla. 71 villes ont été touchées. Okay. Même Toulon, la rue Lamalle, qui est l'endroit, j'allais dire le plus calme de Toulon, il y a eu une bande, d'une espèce de horde qui est arrivée et qui a dégradé. Mais je
vous
pense que quand Jordan Bardella a dit que la prochaine fois ils rentreront dans les immeubles, je pense que c'est cet ensauvagement qui galope. Ça peut évidemment arriver si on n'a pas une réponse ferme. Et encore une fois, c'est la liberté, la paix des Français qui est sacrifiée sur l'autel de ce laxisme à la fois judiciaire et politique.
Alors vous dites laxisme, mais quand on écoute pour le coup les déclarations, je le disais, de Sébastien Lecornu hier, mais même au fond il y a un an, quasiment les mêmes images, dans les mêmes circonstances. C'était Gérald Darmanin, déjà ministre de la Justice, qui disait la loi, la réponse n'est pas à la hauteur de ces violences. Il proposait par exemple de supprimer le sursis. C'est-à-dire qu'il disait, en fait, quand il y a des petites peines, on les exécute tout de suite. Là-dessus, vous êtes d'accord?
On est d'accord, mais ces gens-là sont au pouvoir, ont été au pouvoir. Ça fait 10 ans que toute cette clique est au pouvoir avec Emmanuel Macron. Donc, on juge un arbre à ses fruits. Et où sont les résultats? Je vais vous dire, ce qui pose question, c'est qu'à Budapest, il a fallu 4000 policiers pour passer une bonne soirée. Nous, avec 22 000 gendarmes mobilisés, ça a été le chaos. Vous savez, ces images-là, elles ont des millions de vues sur Internet. Quel est le signal qu'on envoie au monde entier? Est-ce que vous pensez que la France est un pays sûr? Est-ce que vous imaginez que les investisseurs ont envie d'investir, de venir créer de la richesse aussi ici? Mais la réponse est évidemment non. Et puis, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, là, si on regarde cette grande image.
Alors, techniquement, il y en a, c'est pas droite. Juste une histoire d'image, c'est, on a les chiffres, hein, et notamment dans ces interpellations, c'est vraiment à 98%, quasiment l'intégralité des hommes.
Alors, où étaient les femmes? Il y a eu pas mal de témoignages de femmes qui disaient, moi, je ne suis pas sortie parce que je savais que je risquais un moment difficile. Enfin, voilà. Encore une fois, vous savez, hier, j'ai posé cette question au gouvernement. J'ai posé cette question à Sébastien Lecornu. C'est Monsieur Nunes qui m'a répondu. Et peu de temps après moi, il y a un député LFI qui a posé une autre question en disant, quand est-ce qu'on va protéger les gens de la police? Il faut bien que les Français comprennent qu'il y a deux France qui sont en train, évidemment, de s'opposer, et que 2027 va être une élection particulièrement importante parce que c'est deux projets de civilisation qui s'opposent. Les Français auront le choix. Vraiment, avec le sursaut, nous voulons réformer le pays profondément. On n'a pas juste envie de gagner, Apolline de Malherbe. On a envie de réformer le pays, d'armer nos policiers moralement, de leur donner cette présomption de légitime défense qui va leur permettre de mieux nous protéger aussi, parce que ça, tout est lié entre voilà le sursaut ou le chaos, et les scènes que les députés.
Ce que
LFI
vous évoquiez aussi sur les députés LFI. Certes, il y a eu effectivement ce tweet de Clément de Guettet avant le match, puis la déclaration du député Ali Duhara, qui était effectivement dans l'hémicycle hier, sur la doctrine du maintien de l'ordre qui se durcit partout. Mais quand vous voyez aussi qu'il y a eu deux mineurs de 13 et 14 ans qui ont été eux-mêmes blessés gravement à l'œil dans deux villes différentes de la région parisienne après des tirs de LBD, est-ce que là, vous ne vous dites pas qu'il y a aussi une difficulté à appréhender les jeunes par la police?
Mais je pense que la difficulté, c'est quand vous avez des scènes de guérilla, bien sûr qu'il y a une difficulté. Mais encore une fois, je pose la question, que faisaient ces enfants de 13 et 14 ans avec des bombes agricoles, avec des mortiers d'artifice? Enfin, je veux dire, quand on part à la guerre, on sait qu'on peut être blessé. Alors, évidemment que je ne connais pas, il y aura une enquête. Vous savez, la police est une des institutions qui est la plus contrôlée. Et évidemment, quand il y a des comportements déviants, bien sûr qu'ils doivent être contrôlés, mais je peux vous dire que ça l'est, et je pense qu'il vaut mieux réarmer moralement les policiers. Je pense que pour le maintien de l'ordre de tous ceux qui sont sur ce plateau, c'est plutôt une bonne idée.
Merci Laure Lavalette d'avoir répondu à nos questions ce matin. Député RN du Var, le face-à-face à 8h30, tout à l'heure on reviendra à ces questions avec l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre Manuel Valls. Nous sommes mercredi, le mercredi c'est la voix de droite sur RMC, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La droite peut-elle exister sans être unie pour la prochaine présidentielle?
Non, elle ne peut pas. La droite a 30 candidats. Elle n'a donc aucun candidat. Pour la droite, c'est assez simple. C'est l'unité ou c'est la défaite.
Et quand vous dites unité, c'est droite et centre?
Oui, bien évidemment.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
7h53, le bonus. Mathieu, l'événement au cinéma ce jour.
La sortie du film, La Bataille de Gaulle. Premier volet, L'Âge de Fer, une fresque historique. Le général de Gaulle, la France libre, la résistance sur grand écran.
Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort.
Autre chose?
Partout, des réseaux sont en train de se former.
Simon Abkarian, dans le rôle du général de Gaulle, est isolé à Londres. Il fait exister la France entre Churchill et Roosevelt. Moment clé du film, la bataille de Bir Hakeim, 1942.
Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie.
À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement.
Je n'ai pas d'autre option.
L'un des films les Français les plus ambitieux de ces dernières années, tourné en France, au Maroc, en Belgique, entre autres, 75 millions d'euros de budget, 700 figurants, des milliers de costumes, et le deuxième volet du film qui sortira rapidement après, le 3 juillet prochain.
Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus.
Les Français libres.
J'y arriverai.
RMC, Apolline Matin,
Voix de gauche,
Voix de droite.
C'est mercredi, le mercredi c'est Voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, met en garde contre, je cite, une machine à perdre à droite pour 2027. Il constate le rapprochement des divers candidats de droite et du centre dans les sondages. Il appelle à une primaire qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Pour vous, c'est l'union ou la mort ?
Une maison divisée sur elle-même ne peut pas tenir. C'est l'évangile, et c'est surtout Abraham Lincoln, à la veille de la guerre de sécession. Eh bien, la droite et le centre français habitent aujourd'hui cette maison-là. Leur plus grand obstacle, c'est ni Mélenchon, ni Le Pen, c'est eux-mêmes. Laurent Wauquiez a parfaitement raison. La division, c'est la défaite assurée.
Vous avez un exemple en tête ?
À ma petite échelle, oui. Aux élections municipales de Menton, j'ai fait la fusion entre les deux tours, pas par plaisir, par responsabilité. On ne perd pas une ville pour le confort d'un ego refusé de fusionner. C'est précisément ce que Chirac appelait la droite la plus bête du monde.
Alors, ça n'a pas marché.
Bon. Merci de me le rappeler. Pardon, c'est très agréable de vous voir le matin. Ça ne nous a pas suffi à Menton pour sécuriser la victoire, vous l'avez bien souligné, mais la logique reste la même. Et à l'échelle nationale, on est en train, à droite, de refaire la même bêtise.
Le problème, c'est que chacun va dire « c'est moi le plus incarné, c'est moi le plus prêt, c'est moi qui vais gagner ».
Et regardez les autres. La France insoumise a un chef, Mélenchon, un programme, uni, motivé, prêt. Au second tour, Glucksmann, fort, toute la social-démocratie, attendez-vous bien qu'ils se rangent tous derrière la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Le RN, lui aussi, va tenter de rassembler, attendez-vous à la même chose. À droite et au centre, on n'a pas une tête, on en a 30. Philippe, Attal, Borne, Darmanin, Retailleau, Bertrand, Lisnard, Dupont-Aignan, Le Maire, De Villepin, Bayrou, Barnier, Knafo. C'est plus une famille politique, c'est un exercice de respiration. On ne peut pas manger à terrasse à Paris sans être à côté de quelqu'un qui se croit le prochain président de la République.
Donc quoi, une primaire ?
Il aurait fallu une primaire ouverte, une primaire large, qui rassemblait, mais c'est trop tard. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois plus. Reste donc la négociation. Qu'ils se mettent d'accord. Qui est le plus rassembleur ? Qui peut prétendre à la meilleure alternance ? Qui est le plus énergétique, le plus vivant, le plus visionnaire, le plus cohérent ? Qui a le plus de gravitas ? Je ne demande qu'une seule chose, qu'ils s'entendent, qu'ils négocient ou que l'un d'eux tue les autres.
Bon, et puis vous imaginez qu'il y ait vraiment une alliance entre droite et centre ?
Mais elle existe déjà en vérité. Sur le terrain, cette année, le député Charles Rodwell, macroniste, a fait adopter la loi dite philippine sur l'allongement de la rétention des étrangers sous OQTF. 145 votes, 145 signataires, de la droite jusqu'au centre. Voilà comment on fait. Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, monte aujourd'hui avec Laurent Wauquiez, patron des députés LR, les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en France en 2030. Un Renaissance et un Républicain, main dans la main, portant un projet d'État. Quand il y a un cap, une mission, une vocation, ça marche. Le problème n'est pas technique, le problème il est de volonté.
Et pour la présidentielle, ça marche ?
Écoutez, j'ai un exemple en tête. Sarkozy en 2007, pardon de le citer, on
Sarkozy
a toujours un
problème. Nicolas.
Sarkozy perd, bien évidemment. En bâtissant une coalition, on l'a déjà rappelé, allant de Ramayade à Patrick Buisson, c'est-à-dire de la gauche modérée pro-laïque à la droite identitaire. C'est ça, rassembler. Et avec cette coalition-là, rappelons-le, il fait que 53%, c'est-à-dire l'étroitesse de la marge. Aujourd'hui, de toute manière, sans coalition, sans chef légitime, sans programme commun, la droite et le centre se présentent à un combat avec un fusil sans cartouche. Et vous me permettez une prédiction, si je peux me le permettre, si le Rassemblement National a Marine Le Pen comme candidat, je pense que c'est la prochaine présidente de la République. Mais si c'est Jordan Bardella, la droite a un coup à jouer.
Louis Sarkozy, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h57, restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Y a-t-il eu un raté judiciaire dans le Gers ? Vous allez voir que le suspect dans la disparition de Liana était visé par une plainte pour viol sur mineur déposée l'été dernier, mais il n'avait toujours pas été entendu par la justice, on va tout vous expliquer. Les peines continuent de tomber à Paris après les violences de samedi dernier. Un policier en civil de 24 ans a passé la nuit en prison. Et les médecins alertent ce matin sur la santé des jeunes en France. Ils sont adolescents et ils ont déjà des maladies de vieux.
On découvre le profil de plus en plus inquiétant ce matin du suspect dans la disparition de Liana.
Oui, on savait que cet homme de 41 ans avait fait l'objet d'un signalement, c'était en 2021, pour des comportements inappropriés sur une élève à l'époque où il était agent de maintenance dans un lycée du Gers. Plus récemment, en août, donc l'année dernière, il était visé par une plainte pour viol déposée par la famille d'une fille de 10 ans. Une amie, en fait, de ses propres filles qui raconte avoir été violée à plusieurs reprises. au domicile du suspect. La plainte a donc été déposée en août, mais le suspect n'avait toujours pas été entendu par la justice dans cette affaire. Et ça, c'est incompréhensible pour la mère de la fille en question. Elle témoigne sur BFM TV, vous allez l'entendre. Alors, il faut que vous tendiez l'oreille parce que sa voix a été modifiée, écoutez.
Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit. Il essaye de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, que... Il a fait de l'attouchement du sein. Il voulait jouer le jeu de papa et de maman. Je dis que si le justice il était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, il y en a, il n'est pas disparu. Ça me met en colère. Ils ont été où, là? Pendant un an. Pourquoi ils n'ont pas allé voir? Pourquoi ils n'ont pas été allés questionner? Pourquoi ça n'a été pas fait plus vite?
C'est la question qui se pose ce matin, Jean-Marie Forquez, vous êtes en direct de Fleurance, donc dans le Gers, là où a disparu la jeune Liana, et vous nous dites qu'en fait, cette plainte est passée de main en main depuis l'été dernier.
Oui, c'est ça, Quentin, une plainte déposée à la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, c'est près de Toulouse, une plainte déposée très exactement en août 2025. Ce n'est qu'en octobre 2025 que les gendarmes avertissent le parquet de Toulouse, qui est compétent, et qui se dessaisit, deux semaines plus tard, est transmis au parquet d'Auch. La procureure n'en prend connaissance qu'en décembre 2025, et c'est pas fini. Les gendarmes de Lectoure ne sont saisis de l'affaire qu'en janvier dernier. Depuis, eh bien, l'homme n'a jamais été convoqué par les gendarmes, jamais convoqué, jamais entendu, jamais auditionné, jamais inquiété pendant près de 9 mois. Ce matin, évidemment, ici, sur la place à Fleurance, c'est la stupéfaction. Les habitants ne comprennent absolument pas. Ils se disent, mais que vraiment, vraiment, qu'a fait cette justice?
Jean-Marie Forquez, en direct de Fleurance, donc ce matin dans le Gers, où 180 gendarmes sont toujours déployés dans les environs de cette petite ville pour une nouvelle journée de recherche et tenter de retrouver la jeune Liana. On en parlait un petit peu plus tôt ce matin, l'évêque de Carcassonne assure, là, il y a quelques minutes, dans un message vidéo, qu'il n'a jamais été contacté à propos de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, au lendemain de la diffusion d'une émission télé durant laquelle un prêtre, quelqu'un qui se présente comme prêtre de son diocèse, prétendait avoir reçu les confessions de l'homme toujours recherché, des confessions qui dateraient de l'année 2022. Les sanctions continuent de tomber à Paris après les violences du week-end dernier dans la foulée du sacre du PSG. Les comparutions immédiates vont se poursuivre là encore aujourd'hui. 23 hommes étaient jugés hier, 3 ont été relaxés. La plupart en fait écopent de peines de prison avec sursis, Julie Brault.
Oui, tous encore vêtus d'un maillot du PSG, les prévenus défilent et se ressemblent. Tous plaident l'innocence la plus pure. J'étais simplement là pour faire la fête. J'ai été pris dans la ferveur d'un attroupement ou encore, je n'ai pas réalisé la gravité de mes actes, disent-ils. Et pourtant, beaucoup d'entre eux sont reconnus coupables de violence, notamment à l'encontre des policiers. Mais je ne savais pas que les mortiers d'artifice étaient interdits, se défend un jeune homme qui a directement visé les forces de l'ordre avec. Je ne pensais pas que c'était un magasin, tant un autre qui a volé 73 bouteilles d'alcool dans un supermarché saccagé. Alors si certains ont pris conscience de la gravité de leurs actes, notamment en présentant des excuses, d'autres sont ressortis du tribunal, fiers et sourire aux lèvres, en se filmant aux côtés de leurs amis.
Et finalement, la peine la plus lourde est prononcée à l'encontre d'un policier en civil de 24 ans qui a braqué son arme de service sur 2 personnes et qui est condamné à 2 ans de prison, dont 10 mois avec sursis. Et alors, le bilan de ce qui normalement devait être une fête s'est alourdi à 3 morts. Et à ça s'ajoutent 2 enquêtes de la police des polices à Bobigny et à Fontenay-sous-Bois, où des jeunes de 13 et 14 ans ont été blessés aux yeux, probablement par des tirs de LBD. Je vous le disais, il y a cette alerte ce matin des médecins. Ils sont réunis en congrès en ce moment à Paris. Alerte sur la santé de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que de plus en plus de jeunes ont ce qu'ils appellent des maladies de vieux, comme du diabète de type 2. La faute au manque de sport, à la sédentarité, à la malbouffe aussi. La preuve écoutée avec Antonin Audion pour RMC.
La commande est la même chaque semaine dans ce fast-food pour Hakim, collégien de 14 ans.
J'ai pris un menu ketchup, petite frites, cheeseburger, cheese curry.
Comme lui, Winston mange dans des enseignes de restauration rapide, 1 à 2 fois par semaine, et il est bien conscient de l'impact que ça a sur sa santé.
Mon hygiène de vie, ouais, non, c'est pas tout ce que je mange. C'est vraiment trop sucré, trop salé.
Selon les médecins, la sédentarité peut aussi accélérer la survenue de certaines maladies qui arrivent normalement beaucoup plus tard dans la vie. Niall a 18 ans et elle remarque au quotidien qu'elle ne fait pas assez de sport.
Je pense qu'avec les écrans, on est de plus en plus sédentaire et même quand on va à l'école, le sport c'est une fois par semaine au lycée et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de faire plus dans la semaine.
Pourtant, c'est essentiel.
Depuis la naissance jusqu'à l'EHPAD, nous ne bougeons pas assez.
François Carré est cardiologue, président du collectif pour une France en forme.
Nos collégiens ont une pression artérielle plus élevée que les collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont un taux de cholestérol plus élevé que les collégiens d'il y a 20 ans. Ils ont un taux de sucre dans le sang plus élevé. L'infarctus, on le faisait à 45 ans. On le fait avant 30 ans aujourd'hui.
Mais il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Les médecins conseillent de faire une heure d'activité physique par jour.
C'est ce matin qu'un hommage national sera rendu au philosophe et sociologue Edgar Morin, décédé la semaine dernière à l'âge de 104 ans, qualifié de penseur du siècle par Emmanuel Macron qui va présider la cérémonie ce matin aux Invalides à Paris. Au lendemain de sa visite à Clairefontaine, où il a souhaité bonne chance à l'équipe de France de football qui est désormais au complet, les Bleus partiront d'ailleurs dans la journée à Nantes où ils joueront demain leur premier match de préparation mondiale, sera contre la Côte d'Ivoire. Et alors c'est la nuit prochaine que va commencer la grande finale de NBA aux États-Unis qu'on suit avec grande attention cette année parce qu'elle va opposer les Knicks de New York aux Spurs de San Antonio. San Antonio, c'est l'équipe de Victor Wembanyama qui rêve d'un premier titre. Il l'a dit hier à David Alias.
Ambitieux et concentré, c'est ainsi qu'est apparu Victor Wembanyama juste après son coach en conférence de presse avant les finales de NBA, prêt à défier les Knicks de New York.
C'est une grande équipe avec des gars expérimentés. Ils ne sont pas là par hasard, mais grâce à un travail acharné ces dernières années, ils sont là où ils doivent être et ils auront très faim.
Les Spurs sont également allés chercher ces finales de NBA au terme d'une série éprouvante de 7 matchs contre Oklahoma City, série pendant laquelle le meilleur défenseur de la saison a été brillant. Ils peinent encore à réaliser.
Tout ça m'est tombé sur les 5 dernières secondes du 4e quart-temps du match 7. C'est aussi un vrai challenge de gérer toutes ces émotions, c'est énorme.
Car Mitch Johnson, son entraîneur, n'oublie pas le chemin parcouru par le meilleur joueur des finales de Conférence Ouest.
Il a évolué physiquement par rapport à son arrivée à 19 ans. Il fallait juste laisser le temps à son corps d'évoluer, progresser et laisser le temps à ses coéquipiers d'évoluer aussi. Je pense que ses coéquipiers ont grandi avec lui.
Rookie de l'année pour sa première saison en NBA All-Star cette année, Victor Wembanyama aura l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du championnat. Premier acte dans la nuit de mercredi à jeudi.
Première équipe à 4 victoires, c'est ça la règle. C'est la première équipe à 4 victoires qui est sacrée. Autrement dit, ça peut durer jusqu'à 2 semaines, cette grande finale de NBA. Et puis il y aura la suite des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros avec 3 Italiens chez les messieurs. Ça veut dire qu'il y en aura au moins un en demi-finale pour rejoindre l'Allemand Alexander Zverev et le Tchèque Jakub Mencik qui se sont qualifiés hier.
C'était le journal de Quentin Vinet, les 8h09 lors de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel, le chiffre, la contrebande de cigarettes bat tous les records en France et en fait ça coûte cher.
Absolument Apolline, en 2025 pour la première fois, plus d'une cigarette sur deux consommée ne provient pas du réseau local légal des buralistes. C'est un rapport que publie ce matin le cabinet de conseil KPMG qui le dit. 53,6% exactement des cigarettes consommées dans le pays, ça fait quand même 26,5 milliards de cigarettes, ont été achetées en dehors de ce réseau national. À elle seule, la France concentre près de 40% des volumes de cigarettes illicites consommées en Europe, à savoir contrebande plus contrefaçon. C'est des volumes qui ont été multipliés par 3,5 en 20 ans. C'est ce marché-là qui connaît la progression la plus inquiétante, ce marché de la contrefaçon. Une cigarette sur 5 consommée est désormais contrefaite. C'est un niveau 4 fois plus élevé, là encore, que la moyenne de l'Union européenne. Donc c'est bien un phénomène français. Et il faut rappeler que, un, c'est effectivement extrêmement nocif et dangereux, ces cigarettes de contrebande, en plus de la nocivité traditionnelle du tabac. Et c'est surtout que ces trafics privent l'État de plus de 10 milliards d'euros de recettes.
Comment on explique cette dérive à ce point, jusqu'à une sur deux aujourd'hui?
Ouais. Alors, cette dérive française, c'est d'abord la hausse des taxes, l'industrialisation de la contrefaçon, c'est la situation géographique de la France avec toutes ses frontières, la vente sur les réseaux sociaux qui a explosé, la multiplication des points de vente clandestins, et puis comme le montre une autre étude publiée par le think tank Le Millénaire, eh bien c'est l'incapacité aussi des politiques publiques en France à tarir la demande en négligeant la prévention, en refusant les alternatives qui permettraient de sortir du tabac et qui fonctionnent à l'étranger. En Suède, en Nouvelle-Zélande, au Japon, on est prêt à explorer plus qu'en France les sachets de nicotine oraux, le vapotage ou le tabac chauffé sans combustion. Et puis, il faut rappeler qu'au Royaume-Uni, on a pris une mesure radicale. On a interdit la vente de tabac à toutes les personnes qui étaient nées après 2008. Bah, pourquoi pas des mesures aussi radicales?
Et avec cette année qui va évoluer chaque année en Angleterre pour essayer d'avoir effectivement une génération zéro tabac. Allez, bonne nouvelle du côté des chiffres.
Allez, on enquille les records, Apolline.
Bon,
allez, le
ça gazole. Redescend.
2,03 € le litre, on est au plus bas depuis 2 mois et demi. Le samplon 95, ça y est, on a cassé la barre des 2 €, 1,98. Là, on est au plus bas depuis 1 mois. Mais, petite tension sur le pétrole, hein, $96.80 le baril.
Il remonte.
C'est 5 dollars de hausse en 5 jours. Et puis 4 euros de hausse aussi en 5 jours pour le gaz. Donc, à la pompe, c'est rassurant.
Au baril, un peu moins. Merci Emmanuel, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange revient évidemment pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. J'interrogerai après les violences qui ont émaillé la soirée de victoire du PSG samedi soir. Juste après, vous le savez, on poursuit notre exploration de l'Amérique de Donald Trump à quelques jours du début du Mondial. Et ce matin, nous serons donc à 8h50 en direct du Texas avec l'envoyé spécial d'RMC, le Texas où il fait déjà très très chaud, vous l'entendrez. Allez, à tout de suite, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud, 8h15, il est avec nous, Arnaud de Manche.
Bonjour, tous les jours, voilà, tous les jours, c'est mon petit bonjour à vous, Apolline, à vous, les amis. Je salue tout le monde, sauf Géraldine de Maury. Notre Miss Météo qui fait n'importe quoi. On a perdu 15 degrés en une semaine, Géraldine.
Ah, il faisait trop chaud,
Vous êtes bourré, c'est ça. Vous jouez avec le thermostat, c'est Philippe Catherine. Et je coupe le chaud, et je remets le chaud. Alors, tout le monde se pose la même question à la maison. Pourquoi j'ai acheté un climatiseur énorme qui prend la moitié de ma chambre alors que j'ai nulle part où le ranger le reste du temps?
Ça sent le vrai.
Ah, ça sent le vécu. Hein. Ouais, je l'ai fait. Allez, on va parler d'un sujet plus léger. L'affaire Xavier Dupont de Ligue of Ness va-t-elle être relancée? Hier, il y avait un prêtre, le père Marc, sur M6, qui a révélé que Dupont de Ligonnès aurait séjourné dans un monastère dans l'Aude en 2022 et il lui aurait avoué avoir tué sa famille lors d'une confession. Et l'Église a mis 4 ans à réagir.
Je suis obligé dans ce moment léger de rajouter un petit drame.
Oui.
C'est que l'évêque a démenti.
L'évêque a démenti.
Oui, ce matin, l'évêque a parlé du père Marc comme d'un homme. Donc, on ne sait même pas s'il est vraiment prêt.
On ne sait pas s'il est vraiment prêt. Alors, ça ne me surprend pas tellement parce que j'avais la suite.
Vous aviez un petit doute.
Ouais. C'est-à-dire que le mec a Dupont de Ligonnès sur son monastère, l'Église met 4 ans à réagir et le gars prévient pas la police. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu la police, père Marc?
Ben sinon, ils auraient découvert les enfants tout nus qui étaient dans la cave. Non mais ça va parce que maintenant ils sont grands.
Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ce témoignage est peut-être un peu bidonné. Il semblerait que nous en ayons un nouveau au standard. Salut Marc, comment ça va? Oh, bonjour Jack Lang. Oui, vous savez, monsieur Courbet, avec Marc, nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai rencontré chez Woody Allen, avec Roman Polanski, Michel Fourniret et Émile Louis. Dis-moi Marc, t'as pas le numéro de Xav? J'ai pas de nouvelles depuis 3 semaines à peu près. En tout cas, depuis hier soir, Vincent Bolloré tourne en rond dans son bureau. Il faut le retrouver, Dupont de Ligonnès. Je vais absolument lui confier une émission à ce gars-là. Face à Ligonnès.
C'est bon ça. La Jamaïque a-t-elle des réserves de pétrole? Question après ces analyses effectuées au large de la côte sud qui ont mis en évidence la présence d'hydrocarbures, Arnaud.
Alors, quelques conseils aux Jamaïcains. Alors déjà, arrêtez avec le reggaeton H24, ça ouf. Et deuxième conseil, ne dites pas que vous avez du pétrole, bande de dingues. Parce que vous êtes là... Ouais, faut partager, faut un peu donner, faut respecter le grand tout. Vous avez pas vu les infos depuis ces 100 dernières années? Parce que là, il y a Donald Trump qui est déjà en route pour vous expliquer les bienfaits de la démocratie. Hein. Nous allons attaquer la Jamaïque et son président, Pierre-Paul Jacques. Bad guy, very bad guy, Pierre-Paul Jacques. Il sait pas jouer autre chose que du reggae. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Est-ce que Élise Dorjan, elle connaît Pierre-Paul Jacques? Parce qu'hier, elle avait pas de jacket.
Elle est jeune,
Pierre-Paul Jacques, bad guy. Bad guy. Nous allons faire de la Jamaïque le 54e État des États-Unis. 51e, président. Non, on a déjà le Venezuela, le Groenland et Lolita Island.
Ah oui.
À propos, il faut bombarder Lolita Island. Il faut bombarder Lolita Island. Il y a du pétrole là-bas? Non, il y a des vidéos. Allez hop, ça dégage.
Alors, Marine Tondelier propose de créer une Assemblée nationale des enfants.
Oui. des cris, des pleurs, des caprices, de l'immaturité, incapable de se concentrer plus de 5 minutes. Bref, ça va faire doublon avec la vraie. Et comment il va faire Gabriel Attal pour siéger aux deux assemblées en même temps ?
Excellente question, comment il va faire ?
Bravo, en tout cas, ça coûtera moins cher en notes de frais, hein, un paquet de Chocapic, un Happy Meal, et c'est plié. Et puis pour les frais de costume, bon, c'est vrai qu'il change de taille assez rapidement, mais François Hollande aussi, puis on a fait avec. Qu'est-ce que ça va être, les revendications des enfants ? Eh ben nous, on veut deux desserts à la cantine. Et on veut que les policiers, eh ben c'est la patte patrouille. Non, les enfants, allez, on se concentre. On demande des choses intelligentes. Eh ben on veut plus faire tripoter dans le périscolaire parisien.
Oui, on va voir ce qu'on peut faire pour la patte patrouille.
On va voir. Ceci dit, alors les enfants qui deviennent députés, c'est une bonne situation pour eux, c'est un bon job. Attention quand même au conflit à la maison, hein. Tais-toi ! Tu viens dîner !
Mais maman, je suis en train de travailler sur le projet des lois transpartisans sur l'encadrement des loyers dans les villes à forte tension démographique.
Tais-toi, tu descends !
J'active le 49.3 !
Et ils apprennent vite, hein, c'est tout bon. Alors, il y a peut-être un conflit d'intérêt pour Marine Tondelier, parce qu'elle propose des jobs en or pour les enfants. Députée, c'est 7000 balles par mois, c'est bien. Pendant ce temps-là, elle est enceinte. Mm. Voilà, il est pas né, le môme. Il a déjà un super bon job de garantie. C'est le David Hallyday de la politique. Bravo, bravo, Madame Tondelier, bravo ! On avait les Nepo Babies, maintenant on a les Nepo Fœtus. C'est formidable. Tiens, alors je termine sur une anecdote historique. On a déjà élu un enfant à l'Assemblée nationale. C'est absolument authentique. Il était même venu témoigner à RMC. Mais je ne suis pas un enfant, je suis Éric Ciotti, le maire de Nice. Pardon, monsieur Ciotti. Et à demain.
Comme une plaie. Ah, oui. Comme une bleue. Enfin, je sais pas.
On y croit. Et finalement, l'illusion se
fane. Il est entre Jack Lang et Éric Ciotti. J'avoue que vous m'épatez. 8h21. On se retrouve dans un instant sur RMC et sur BFM TV. C'est le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre, Manuel Valls. Tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Soupçonné d'avoir enlevé Liana, on apprend qu'il est aussi accusé de viol sur mineur. Le passé de l'homme actuellement en détention provisoire dans le Gers ressurgit. Passé récent puisque cette plainte a été déposée il y a moins d'un an. C'est une autre jeune fille de 10 ans du même village que le suspect qu'il accuse, dévoile nos confrères de BFM TV. La justice ne l'avait jamais entendue pour cette affaire. Liana, elle, est toujours introuvable. Un policier en prison condamné à 14 mois ferme pour avoir mis en joue des supporters du PSG samedi soir alors qu'il était ivre et hors service. Majorité de sursis pour les autres comparutions immédiates d'hier. Le Koweït ferme son trafic aérien, son aéroport touché par des frappes de drones ce matin. Il y a plusieurs blessés. Plus tôt, l'Iran revendiquait des tirs contre le pays pour cibler des bases américaines. Aucun n'a atteint sa cible selon Washington qui a riposté dans le détroit d'Ormuz. La guerre au Moyen-Orient qui n'empêchera pas Air France KLM de transporter tous ses clients cet été. Cela vaut aussi pour sa filiale low cost Transavia, annonce le groupe ce matin. Les tensions sur le carburant, le kérosène, laissaient planer un doute. Une journée aux accents italiens à Roland-Garros aujourd'hui. 3 joueurs italiens sur les courts aujourd'hui pour la suite des quarts de finale. Coboli, Berrettini, Arnaldi. Hier, le désormais favori allemand Zverev s'est qualifié en demi-finale. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Sabalenka va aussi jouer son quart de finale contre la russe Schneider. Tout ça à suivre sur la radio digitale RMC 100% terre battue. Et puis la météo, un temps plus calme aujourd'hui, bien ensoleillé des Pyrénées à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, ce sera plus nuageux avec de la pluie en Bretagne ce matin. Puis cet après-midi, il pleuvra des Pays de la Loire au centre, en Ile-de-France, en Normandie et sur les Hauts-de-France. Côté température de 17 à Rouen jusqu'à 28 à Perpignan, 22 à Bordeaux et 24 à Lyon.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Les violences après la victoire du PSG en disent beaucoup sur l'état du pays. Voilà ce qu'il a écrit et voilà ce qu'il s'apprête sans doute à dire. Il veut un retour de l'ordre républicain. Oui, mais comment ? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Pauline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. De nombreuses questions ce matin sur la justice et sur le maintien de l'ordre. D'abord, évidemment, c'est 890 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, les premières comparutions immédiates, mardi et hier. Quelques peines prononcées de prison, mais la plupart avec sursis. Une seule condamnation à de la prison ferme hier, c'est pour un policier. En l'occurrence, un policier qui était hors service, qui a mis en joue des automobilistes avec son arme, alors qu'il célébrait la victoire du PSG samedi soir. Il a été condamné hier à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. Comment vous lisez ces premières peines qui ont été prononcées et la situation de ce policier?
Que ce pays marche sur la tête. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent se disent donc que, après ces violences inouïes, ces images et surtout ces faits commentés partout dans le monde, puisqu'il s'agissait d'émeutes de violence après la victoire du PSG. Donc le résultat, c'est aucun émeutier en prison et un policier, pour des raisons tout à fait justifiées, qui lui est en prison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en termes de message qui est donné à la société.
En termes de message,
après des
j'imagine
violences répétées, réitérées, puisque l'année dernière déjà, ou lors de la finale entre le Real Madrid et le Liverpool, au Stade de France, sans parler des émeutes de 2023. Donc il y a quelque chose qui n'est pas seulement lié évidemment au football, mais qui dit d'un problème majeur dans une partie de la jeunesse. Et aussi de violence.
On va y revenir parce que vous dites, et vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux, pour vous, le mal est plus profond. Il dit l'état du pays. Mais quand même, sur cette histoire de policier, on peut aussi comprendre qu'aux yeux de la justice, le fait qu'il soit policier, le fait que ce soit son arme de service, rende la peine plus dure pour lui que pour d'autres.
Le débat ne porte pas sur la condamnation concernant ce policier qui a sorti son arme. Il était ivre, il était hors service, et il a menacé. J'ai écouté les témoignages de ceux de celles qui ont été
mis en jeu.
C'est tout à fait normal. Mais c'est le message général qui est donné à la société. On donne le sentiment qu'on condamne un policier et c'est justifié, mais que ceux qui ont brûlé, cassé, enfin il y a eu des dizaines, des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre, parmi aussi les supporters, on a cassé, il y a eu indirectement ou directement également des morts. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette situation est particulièrement grave, on ne peut pas la nier, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on s'habitue au fond en France à ces faits, inédits, parce que dans les autres pays, ça n'arrive pratiquement pas, et il faut surtout...
Pas dans cette ampleur là, ou pas avec autant de casse.
Et pas avec autant de casse, et pas à chaque fois, et avec le sentiment qu'on s'y prépare. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de force de l'ordre. 9000 policiers à Paris, 22000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire que les responsables de l'ordre public, à commencer par le ministre de l'Intérieur, savaient.
Alors prenons justement les choses les unes après l'autre. J'allais dire, cette préparation, Laurent Nunez d'ailleurs, votre successeur lointain au ministère de l'Intérieur, il dit globalement la situation était sous contrôle. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Le mot globalement est à éviter en général, mais parce que je suis d'une très vieille culture et que j'ai déjà un certain âge et que les bilans globalement positifs, ça fait un peu peur, ça rappelle une phrase de Georges Marchais concernant l'Union soviétique, mais vous n'étiez pas né,
voilà,
à Pauline
de Malherbe. Globalement, voilà.
Non,
globalement, c'est toujours louche.
Mais lui, il est en charge de l'ordre public. Je sais que le maintien de l'ordre public, c'est un des sujets les plus compliqués à traiter, notamment quand il y a des jeunes dans la rue. Mais ça donne un sentiment, c'est ça qui est le plus terrible, d'impuissance. Or, notre doctrine de maintien de l'ordre sur ce type de fait doit être totalement revisitée. Il faut tout changer, parce qu'au fond, l'idée, c'est il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans les commissariats le soir même. Alors qu'il faut plutôt s'inspirer, par exemple, de la doctrine britannique.
C'est quoi la doctrine britannique ?
Elle agit sur le long terme, c'est-à-dire c'est l'alliance du renseignement, et là je pense qu'il faut des groupes dédiés, capables d'infiltrer ces groupes, c'est l'analyse évidemment des réseaux sociaux, c'est le rôle de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, des enquêtes qui sont forcément plus longues, mais qui donne des résultats. Là, on donne le sentiment de vouloir interpeller tout de suite. On interpelle ceux qui courent le moins vite, ceux qui ont moins d'expérience, souvent des très jeunes, des mineurs, des primo-délinquants, c'est-à-dire qui n'ont pas de casier judiciaire, et ça donne les résultats que l'on connaît en termes de justice. Et ça donne donc un sentiment général d'impuissance. Donc, le renseignement, l'exploitation numérique, des enquêtes
prolongées,
des poursuites systématiques, des peines évidemment plus lourdes, voilà ce dont nous devons nous inspirer, qui est pratiqué dans d'autres pays, et notamment en Angleterre.
Parmi les propositions d'efficacité, justement, Bruno Retailleau dit par exemple qu'il faut la reconnaissance faciale. C'est aussi ce que dit Jordan Bardella. Est-ce qu'il faut accepter la reconnaissance faciale sur toutes les caméras?
Nous vivons dans un monde numérique où nous sommes en permanence filmés par d'autres. D'ailleurs, souvent, les émeutiers eux-mêmes, les casseurs, filment ou les policiers ou ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a une espèce, au fond, de joie, je mets des guillemets, évidemment.
De trophée. L'idée de rapporter par la vidéo un trophée, c'était le mot utilisé par Laure Becchio, la procureure de la République.
Donc nous vivons dans ce monde numérique, donc il faut évidemment utiliser tous les moyens sous contrôle de l'État, parce que nous sommes un État de
donc,
droit.
Donc reconnaissance faciale, pourquoi pas?
Exploitation numérique, renseignement, enquête prolongée, poursuite systématique pendant plusieurs mois. Parce que les enquêtes, elles sont forcément longues. Là, on a sorti.
Il n'y a aucun bilan. Nous avons fait la demande avec les journalistes d'RMC et de BFM TV de ce qu'il s'est joué il y a un an. Parce qu'il y a un an, au fond, quasiment même contexte et même situation, il y avait eu déjà après la victoire du PSG de très lourdes violences ou casses dans Paris. Et à l'époque, d'ailleurs, vous-même, vous aviez à l'époque condamné. Vous aviez dit qu'il fallait sans doute des peines plus fortes. Vous aviez à l'époque Gérald Darmanin, qui était déjà ministre de la Justice, qui déjà avait dit peut-être qu'il faut d'ailleurs supprimer le sursis et passer directement à des peines de prison. Elles ne sont pas adaptées. Bref, il y avait déjà un certain nombre de points qui avaient été évoqués. Et l'on a demandé, nous, à la Justice, au ministère de la Justice, au parquet, un an après, quel était le bilan, après les interpellations, des peines prononcées et des peines exécutées pour les casseurs d'il y a un an. Ce bilan n'a jamais été fait. Il n'y a pas eu ce travail. Il n'a pas été fait, ni par la justice, ni par l'intérieur, ni par personne.
Et là, vous parlez d'un an, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on fait face à ce type de phénomène. Nous l'évoquions il y a un instant. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'où ce sentiment d'impuissance. On s'interroge souvent pourquoi il y a une crise de la démocratie, pourquoi il y a une crise de la politique, pourquoi il y a une crise de la représentation, pourquoi les extrêmes montent. Tout simplement parce que on donne le sentiment que l'État ne fonctionne pas, en tout cas dysfonctionne. Donc là, il y a un projet de loi qui arrive, qui avait été retardé pour notamment s'attaquer avec des peines plus lourdes à ceux qui utilisent les fameux mortiers, qui sont des armes
qui sont officiellement interdits, hein.
Et qui sont, oui, donc il y a bien un problème à la fois dans la vente.
C'est la loi Riposte que vous évoquez.
C'est la loi Riposte, donc celle-ci, elle doit être votée. Il faut une liste des casseurs récidivistes. Il faut donc ces groupes de renseignements dédiés que j'évoquais il y a un instant. Il faut une meilleure coordination du renseignement territorial que moi j'avais remis en place, de la cyber, de la police judiciaire, des responsables de l'ordre public. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que moi-même je refais ces propositions depuis déjà plusieurs années. C'est que à chaque fois qu'il y a un événement, bah, à ce moment-là, tout le monde vient et se précipite pour dire voilà ce qu'il
Emmanuel
faut faire.
Emmanuel Macron dit c'est insupportable, nous ne l'accepterons pas, ras-le-bol, c'est fini. Mais c'est quasiment mots, mot pour mot ce qu'il disait il y a un an.
C'est un papier-collé de ce qu'il a dit, je peux le comprendre, à l'Élysée, accueillant il y a un an déjà la première victoire
déjà.
Du Paris Saint-Germain. Nous avons eu les émeutes de 2023. Nous avions pris un certain nombre de dispositifs quand j'étais ministre de l'Intérieur, en 2013, lors de la première victoire du Paris Saint-Germain, du championnat de France, sous la Ligue, sous le règne Qatari. Il y a eu au Trocadéro des incidents particulièrement graves. Il y a eu d'ailleurs un jeune homme, si j'ai bonne mémoire, qui a été tué. C'était uniquement dans le cadre de ce quartier.
C'était ces scènes, notamment autour effectivement du Trocadéro. Il y avait ce bus de touristes qui avait été encerclé par des jeunes qui avaient volé les valises. C'était une scène de chaos.
Toutes les mesures que je rappelle, qu'il faut mettre, donc qui est un changement de doctrine du maintien de l'ordre, qui est une utilisation différente du renseignement, qui est l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça ne va pas régler les problèmes d'il y a deux jours ou il y a trois, quatre jours. Tout ça doit être mis en œuvre, c'est du moyen terme. Et puis ensuite, évidemment, il y a des problèmes plus lourds de la société française pour expliquer ce qui se passe dans notre société.
Pourquoi est-ce que des jeunes cassent? Pourquoi est-ce que pour fêter une victoire, on casse?
Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République. à l'école, dans la famille. C'est-à-dire que si on ne rétablit pas l'autorité républicaine dans ce pays, mais c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la famille. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions très lourdes et qui touchent également aux allocations familiales concernant les familles, les parents, qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en capacité de tenir leurs enfants. Enfin, des mineurs dans la rue qui cassent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, c'est de la responsabilité bien sûr de la société, mais c'est aussi de la responsabilité
le plus jeune des personnes, des mineurs qui ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche à 14 ans et eux ne sont pas encore passés devant la justice. Il n'y a pas de comparution immédiate pour les mineurs, je le reprécise. Les mots que vous avez dit hier, c'est il y a un combat qu'il faut mener, c'est faire France contre la haine de la France. C'est mot pour mot faire France, l'expression qu'a utilisée Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. Il dit aussi, c'est une question, il a dit intégration, c'est aussi un mot que vous utilisez, et faire France. Mais ça passe par quoi, faire France ?
D'abord, on ne soutient pas une équipe de football, on ne soutient pas notamment le Paris Saint-Germain, qui est une formidable équipe, et en plus plutôt sympathique, hein, en brûlant la France. Donc il y a une contradiction fondamentale. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui brûlent et cassent et s'en prennent aux forces de l'ordre étaient eux-mêmes des supporters du Paris Saint-Germain. Le lendemain, sur le Champ de Mars, au moment de l'accueil du Paris Saint-Germain, les choses étaient très organisées et au Parc des Princes, ça a été une formidable fête.
Et où là, il s'agit davantage, sûr qu'il s'agit vraiment de supporters.
Oui,
à ce moment-là,
les choses étaient cadrées. Organisé. Mais il y a dans ce pays depuis 25 ans. Peut-être, ça avait éclaté à la face du pays. Rappelez-vous de la France black-blanc-beurre en 1998, après la belle victoire des Bleus. Mais trois ans après, lors d'un match amical France-Algérie, on avait sifflé la Marseillaise, on avait envahi le terrain. C'était le message absolument contraire. Donc il y a
Mais on a l'impression d'un jour sans fin, pardon.
Et les mots.
Quand vous égrenez tous ces
et
épisodes.
Les mots et les faits. Oui, parce qu'on est passé à côté de quelque chose, mais évidemment, il faut le dire. On ne protège plus ce pays, son drapeau national, son hymne, ce que nous sommes. Moi, ça a toujours été mon discours. Je me suis toujours défini. Ça m'a valu parfois dans mon camp politique, la gauche, beaucoup d'attaques. Mais la République, le patriotisme et je ne parle pas d'intégration, l'assimilation. C'est-à-dire que c'est
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous distinguez intégration et assimilation ?
Moi, je suis un assimilé. Je suis né à Barcelone. Je me suis naturalisé. J'ai été député,
vous
maire,
Vous avez demandé
ministre,
la nationalité à quoi ? À 16 ans, 18 ans ?
À 18 ans. Donc, et j'aime ce pays parce que j'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime sa langue, j'aime ses valeurs. Tout ce qui, comme on dit, fait commun ou fait France, c'est vrai. Vous avez raison, Apolline de Malherbe. Souvent, des mots bateaux.
J'ai l'impression d'entendre le même mot Raphaël Glucksmann que vous-même, probablement, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dix ans.
Mais et à la tribune du Parlement.
Ou François
attentats.
Hollande, lorsqu'il a été élu et qu'il a dit, moi, je vais réconcilier les Français.
Et donc, c'est ce discours, et parfois y compris ce disque rayé, j'en fais partie, qui crée ce sentiment d'impuissance. Mais il y a pire qu'un sentiment d'impuissance. Enfin, il y a une réalité. C'est un sentiment profond de colère. Mais il suffit pas de commenter. Et y compris ce que je suis en train de dire ne va pas régler les problèmes ou les décisions de justice concernant les casseurs. Mais si on ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire notre discours sur l'école et la laïcité, si ensuite on ne reconstruit pas nos quartiers, le peuplement, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre dans les mêmes quartiers, dans les mêmes cages d'escalier, dans les mêmes villes, des populations qui viennent de l'immigration.
Une
là, il s'agit
quoi,
de Français.
De ghettoisation, c'est ça ce que vous dites ?
Moi, j'avais parlé, ça avait fait beaucoup de bruit, il y a 15, 20 ans, d'apartheid territorial, social, ethnique et religieux. C'est tout ça qui nous pète à la gueule.
Mais est-ce que vous voulez dire aussi que ces jeunes qui, parfois, ont vécu dans ce que vous appelez des apartheid, c'est-à-dire, en fait, le sentiment de ne pas pouvoir avoir accès au centre de Paris, à un certain nombre d'écoles, d'études, d'emplois. Est-ce que c'est aussi cette colère-là qui ressort aujourd'hui ? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut les excuser ?
Je ne cherche jamais à excuser. Je crois dans la responsabilité collective, je crois aussi dans la responsabilité individuelle. La France, l'éducation nationale, l'école de la République offre beaucoup d'opportunités.
Est-ce qu'elle l'offre encore, cette opportunité? Est-ce qu'elle fonctionne encore aujourd'hui?
Non, elle dysfonctionne bien évidemment aujourd'hui. C'est pour ça que le grand débat...
Encore une fois, Raphaël Glucksmann, hier matin, à peu près sur le même genre de diagnostic que vous, disait, longtemps on allait dans l'école privée parce qu'on y allait par conviction religieuse. Aujourd'hui, on y va presque pour protéger ses enfants ou pour espérer qu'ils auront une bonne éducation. Ce qui veut dire que l'école publique ne fait plus son boulot.
Elle ne fait pas son travail. C'est pas la faute des enseignants. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va... La massification de l'école, la numérisation de notre société, tout cela a évidemment énormément changé. Mais l'école, ça doit être l'un des grands débats, l'un des grands sujets de 2027. Mais si on continue, parce que là, il s'agit de jeunes Français, si on continue à travers des politiques migratoires qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas gérées, à accumuler dans les mêmes quartiers, dans les mêmes départements, des populations pauvres et entrant en grande difficulté, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des formes de contre-culture qui s'organisent et qu'on ait de plus
en
plus ce type de problème.
Vous avez écouté, j'imagine, les propositions de Gérald Darmanin ou de Gabriel Attal. Gérald Darmanin, il dit qu'il faut un moratoire, faire pause sur l'immigration pendant 3 ans. Gabriel Attal, lui, dit qu'il ne faut que de l'immigration de travail et durcir les conditions du regroupement familial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux propositions?
Il y a quelques années, à ce même micro, j'avais parlé devant vous d'immigration zéro. Nous n'avons pas besoin d'une immigration de travail. Alors peut-être il faut des quotas ici ou là, parce qu'on sait que dans la restauration, dans l'agriculture, on peut avoir besoin.
Donc là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec François Ruffin, par exemple?
Oui, ils sont d'accord avec moi.
Vous l'avez dit avant, peut-être.
J'avais été fustigé, mais c'est pas le sujet. Mais il y a un texte qui va être adopté définitivement par le Parlement européen, par l'Union européenne, le pacte migration-asile.
Avec l'idée notamment de ces hubs, en quelque sorte.
Je suis européen. Enfin, l'Europe se dote d'un certain nombre d'outils et de moyens pour protéger nos frontières extérieures et pour pouvoir expulser plus efficacement et pour réformer aussi l'asile. Eh bien, il faut soutenir cela. Et or, je vois, y compris à gauche et même au centre, des contradictions sur ce sujet-là. On a un pacte européen qui a été, c'est vrai, porté beaucoup par la droite, mais que les sociaux-démocrates danois ou maltais soutiennent, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. Bon, donc, voilà, là, on a un outil. Donc, il faut être clair sur ces sujets-là. Mais ça, ce sont des sujets de moyen et de long terme, mais qui sont indispensables si on ne veut pas voir se répéter en permanence tous les ans, parce que j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera souvent des trophées européens. On ne va pas avoir à chaque fois, mais c'est vrai pour le football, c'est vrai à d'autres occasions. Nous l'avons vu, nous l'avons commenté il y a un instant.
Manuel Valls, qui est votre candidat?
Moi, pour le moment, aujourd'hui, je n'ai pas de candidat.
Quand vous entendez, on vient de citer les propos de Gabriel Attal ou de Gérald Darmanin, quand vous voyez Édouard Philippe, quand vous voyez Raphaël Glucksmann hier à ce micro, qui avait honnêtement un discours sur le fond pas très éloigné du vôtre, quand vous voyez les envies d'un François Hollande ou d'un Bernard Cazeneuve, est-ce que vous estimez effectivement que l'un de ceux-là pourra être le candidat quoi? Une sorte de centre qui puisse être considéré comme un centre-gauche?
Je suis un peu désespéré face au jeu politique. Aujourd'hui, enfin écoutez, le niveau de nos déficits publics, de la dette, la situation de l'école, la violence dans notre société, le niveau de chômage qui reste toujours très élevé malgré un certain nombre de progrès, la crise politique et morale qui doit beaucoup, mais pas seulement, à la dissolution provoquée par le président de la République. Je pourrais vous dire l'état de nos territoires ultramarins, parce que je les ai toujours au cœur. Sur tous ces sujets-là devraient être au cœur, mais avec du débat, avec des solutions, des propositions, une méthode pour gouverner. Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, Jean-Michel Blanquer, François Baroin, Bruno Retailleau et bien d'autres devront gouverner ensemble. Ils nous mentent. Ils disent pas la vérité quand ils disent nous allons vers une candidature unique. La gauche, la droite vont l'emporter. Non.
Tout cela pour vous, en réalité, ont vocation à travailler ensemble.
Mais avec une méthode, en disant comment ils vont le faire, avec quel type
à
de coalition.
En se disant, on se met d'accord sur un programme et on y va.
Oui, et puis il faut demander un mandat aux Français, sur tous les sujets que nous avons abordés de manière concrète. Le président ou le candidat dit, je vais régler à moi tout seul les problèmes. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut une coalition, ce qui n'a jamais été fait, parce qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait, avec un projet, un calendrier, un agenda, une méthode. Édouard Philippe le propose, l'utilisation du référendum. Donc, il faut changer totalement. Et moi, je prendrai position quand tout ça sera sur la table.
À l'automne. Merci, Manuel Valls, d'avoir répondu à mes questions. 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, on va prendre la direction des États-Unis. La Coupe du Monde a déjà débuté sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC et la Coupe du Monde de foot, premier match le 11 juin, ça a déjà débuté sur RMC.
RMC. RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Rebonjour Virginie Philpin. Virginie, dans un instant avec vous, on va parler de la sécurité autour de ce mondial. Mais d'abord, on va partir à Miami, rejoindre l'envoyé spécial d'RMC aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Martin, donc c'était Miami hier, et là vous avez repris la route ce matin. Vous êtes arrivé au Texas, à Houston, au sud des États-Unis, où on risque d'avoir particulièrement chaud. Hein.
Ouais, il fait chaud, il fait très chaud, on suffoque hein, ici, même la nuit, il est bientôt 2h du matin ici et il fait encore 25 degrés. La température va pas baisser beaucoup plus bas cette nuit et ça risque de faire un petit peu bizarre aux supporters suédois, néerlandais ou allemands dont les équipes vont jouer à Houston dans les prochains jours. En fait, va falloir qu'ils s'habituent à se faire tout le temps. Dès qu'on met le pied dehors, j'en fais l'expérience tous les jours, et encore, je m'en sors bien, moi, à venir avant la Coupe du Monde, puisque les températures vont continuer de grimper, parfois friser les 40 degrés ce mois-ci, m'a expliqué Suzy. Elle, je l'ai rencontrée vers 9h du matin, elle venait de finir un match de tennis, mais on avait l'impression qu'elle sortait plutôt de la piscine, tellement elle avait chaud.
L'été ne commence que le 21 juin, donc ça va être encore pire. L'été, j'arrête au plus tard à 10h30 le matin. Après, impossible. Tôt le matin et en soirée. Le reste de la journée, il fait beaucoup trop chaud. C'est épuisant. En 15 minutes, je suis trempée à cause de l'humidité. On est à 98% d'humidité ici. À Roland-Garros, la semaine dernière, c'était 48%. Ça change tout.
On est aux États-Unis, Martin. J'imagine que les Américains vont tenter de trouver des solutions magiques pour rafraîchir un peu tout le monde.
Et on mise sur des arbres ici à Houston, mais attention, des arbres 2.0, des arbres en métal. Il y en a une quinzaine qui sont en train de pousser à Houston, le long d'une avenue qui permettra de rejoindre le centre-ville depuis la future fan zone. En fait, ce sont des tiges en acier inoxydable, hautes de 4-5 mètres, avec au sommet un cercle surmonté d'un tissu qui sera posé dans les prochains jours. La promesse, baisser la température de 10 à 15 degrés pour ceux qui seront à l'ombre de ces arbres métalliques. Moi, je voulais les tester, voir ce que ça donnait, mais les travaux ont pris un peu de retard. Donc, le tissu n'est pas encore installé. Forcément, il n'y a pas d'ombre. En attendant qu'elle soit terminée, ces structures surprennent un petit peu en centre-ville.
Je ne sais pas ce que c'est, une œuvre d'art peut-être. Des fois, ils installent des brumisateurs, mais là, ça ressemble plus à une œuvre d'art.
Non, en fait, ce sont des arbres métalliques.
Je ne savais pas qu'on avait ça. J'en ai vu plusieurs en ville. C'est cool. Si ça marche, ça pourrait vraiment aider en été. Enfin, si on est juste en dessous, j'imagine.
Pas sûr que ça marche. On ne peut pas être nombreux là-dessus. Les Américains, on est plutôt large, vous savez.
Allez voir hein, ces longues tiges, ces arbres 2.0, parce que la mairie de Houston a prévenu, ce sera l'un des héritages du mondial dans cette ville où rien n'était vraiment pensé jusque-là pour les piétons.
Martin, il y a 4 ans, vous aviez couvert pour RMC le mondial au Qatar. Et certaines rues étaient climatisées à l'extérieur. Ça pourrait être le cas aux États-Unis ?
Alors, c'est pas prévu, en tout cas pour le moment. Aujourd'hui, on est sur des solutions beaucoup plus artisanales, notamment ici à Houston. La climatisation, on en aura évidemment dans tous les bâtiments. Déjà, à Houston, on perd facilement 15 degrés dès qu'on franchit le pas d'une porte. Mais surtout, elle sera présente aussi, la climatisation, dans certains stades. Le Houston Stadium, par exemple, est un stade couvert, climatisé, comme 4 autres enceintes qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde.
Il y a quand même un vrai risque de coup de chaud sur cette Coupe du Monde, hein.
Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un réseau international de scientifiques pour qui un quart des 104 matchs de cette Coupe du Monde se tiendra dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes, notamment ici à Houston. Ce sera dur pour les joueurs, ce sera dur aussi pour les supporters. 1,5 million de fans attendus ici d'ici la fin du mois de juillet, du jamais vu à cette période de l'année ici à Houston.
Merci beaucoup Martin. Martin Bourdin, donc en direct depuis les États-Unis jusqu'à la fin de la semaine. Vous nous racontez l'Amérique de Donald Trump à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Retour en France.
RMC, le mondial de Virginie.
Et retour dans ce studio avec vous Virginie Fulpin. Le match d'ouverture, ce sera donc le 11 juin à Mexico, entre Mexique et Afrique du Sud. La question de la sécurité se pose. Hein.
Le danger ne vient pas forcément d'où on pense. Il y a quelques mois, le chef d'un puissant cartel de la drogue avait été tué au Mexique. Il y avait eu de graves violences ensuite qui pouvaient effrayer avant la Coupe du Monde. Mais là, rien à voir. Ce sont des enseignants qui ont brûlé des maillots et forcé l'entrée d'une fan zone à Mexico. Ils manifestent pour des hausses de salaire et un changement dans la politique éducative et ils trouvent que leur cause doit primer sur le divertissement que représente une Coupe du Monde. D'accord, mais en attendant, ils auront droit à un jour de congé pour l'ouverture du mondial. Toutes les écoles mexicaines seront fermées le 11 juin.
La Colombie joue son premier match au Mexique et là, c'est le maillot de la sélection qui provoque des vagues.
C'est vrai, en Colombie, il y a deux faces. Le côté rassembleur, on est tous ensemble avec Shakira et son hymne de la Coupe du Monde. qu'on va entendre quelques fois d'ici le 19 juillet. Et puis vous avez les batailles politiques autour du maillot. Il y a une présidentielle en ce moment en Colombie. Le deuxième tour, ce sera le 21 juin en plein mondial. Et le candidat de gauche accuse son rival de droite d'utiliser le maillot national pour sa campagne. Abelardo de la Espriella est en permanence vêtu du maillot colombien. Sa femme et ses enfants aussi en meeting. Et le candidat de gauche dénonce une récupération politique. Pourtant, vraiment, récupérer le foot en politique, c'est rare. Hein.
Franchement, on n'a jamais vu ça. Jamais. En tout cas, ici en France, jamais. Bon, allez, heureusement, il y a quand même de jolies histoires qui rassemblent autour de cette Coupe du Monde.
Oui, on est quand même là pour ça. À la base, il y a un influenceur argentin très célèbre qui s'appelle El Scarso, qui s'est amusé à éplucher la liste de tous les joueurs de tous les pays qui participent à la Coupe du Monde. Il a regardé leur nombre d'abonnés sur Instagram et il a trouvé le moins connu de tous. Le défenseur néo-zélandais Tim Payne, parce qu'il a moins de 5000 followers. El Scarso a lancé une campagne virale pour en faire une star.
Vamos a conocer a Tim Payne. Si no lo conoces, él es Tim.
Alors, je disais 5000 followers, ça c'était avant la campagne d'El Scarso, parce qu'en quelques jours, Tim Payne est passé à 4 millions de followers. Bon. Allez, on va être un petit peu chauvin. 4 millions, c'est bien, mais on est encore loin des 130 millions de Kylian Mbappé. Hein.
Voilà. Allez, merci, Virginie. La Coupe du Monde, c'est à suivre en intégralité sur RMC. Vous ne raterez rien. Grâce à notre studio délocalisé aux États-Unis, ce sera aux abords du stade où aura lieu la finale le 19 juillet à New York. Et c'est évidemment dès maintenant sur RMC. Dans un instant, les GG. Alain Marchal vient d'entrer dans ce studio. Salut, Alain. Quel est le programme?
Le suspect numéro 1 dans l'affaire Liana, déjà visé par une plainte pour viol au cours de l'été 2025, jamais entendu par la justice. Ça pose quand même des questions et un problème. À tout de suite avec les grandes gueules.